Salut à tous, c'est Perrine de Basiologie. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors-Série, qui est un épisode un peu particulier car c'est la première fois que je fais ce type d'interview. Pour les personnes qui sont nouvelles, qui n'auraient jamais écouté les épisodes de ce podcast, jusqu'à présent je fais des interviews de scientifiques, il y a des personnes qui mettent en avant la recherche et aujourd'hui j'ai décidé de mettre en avant les personnes qui sont ou qui ont été malades et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous partons à la rencontre de Thibaut. Bonjour à toi Thibaut.
Salut Perrine, ça va ?
Ça va très bien, merci. Donc effectivement, alors je ne te demande pas à toi en retour si ça va, car c'est un peu le sujet aussi de l'épisode, donc on en parlera. Et donc en fait, pour introduire rapidement le sujet de l'épisode, aujourd'hui tu vas nous parler de ton cancer, sur lequel tu t'es battu pendant plusieurs mois. Et je trouvais intéressant donc, de plutôt aussi mettre en avant parce que souvent, alors... Pour les personnes aussi qui découvrent ce podcast, donc moi je suis chercheur, je travaille dans la recherche médicale et en fait on passe nos journées à essayer de mettre en avant, enfin essayer de faire avancer la recherche médicale pour essayer d'améliorer des traitements pour les patients. Et je trouve aussi intéressant d'aller directement à la rencontre aussi de ces patients-là. Donc moi aussi je travaille dans la recherche dans le cancer et je me suis dit ça pouvait être aussi intéressant de rencontrer ces personnes-là, d'avoir un témoignage d'une personne qui a vécu du début jusqu'à la fin tout le parcours médical. Et donc toi Thibaut, tu en parles aussi très bien. Donc voilà, en tout cas merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview.
Bah, merci à toi de m'avoir proposé ça aussi, quoi.
Mais avec plaisir. Et en tout cas, merci aussi. Enfin, merci pour ton courage, parce que je pense que c'est pas facile aussi de parler de tout ce qu'on, du parcours que tu as vécu. Donc voilà, j'espère en tout cas que l'interview sera à la hauteur parce que voilà, je cache pas qu'on est quand même un peu stressé. C'est la première fois que j'interviewe, on va dire, une personne. Qui a plutôt vécu de l'autre côté, en tout cas le côté malade, si je peux dire comme ça, et le côté médical, plutôt que le côté de la recherche. Donc avant de commencer, je vais m'arrêter là et je vais te laisser toi te présenter toi-même avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi-même ?
Alors, je m'appelle Thibaut, j'ai eu 34 ans début février dernier, oui ça passe vite. Je travaille dans l'audiovisuel, pour être plus précis, je suis caméraman, bientôt monteur vidéo et puis télépilote de drone. J'ai fait du théâtre pendant 14 ans, donc on peut dire que je suis comédien semi-professionnel. À part ça, je suis quelqu'un de, on me considère généralement comme quelqu'un de très curieux. Pas dans le mauvais sens, mais plutôt dans le bon sens. Je suis assez curieux de beaucoup de choses. Et pendant longtemps, j'étais très curieux de tout ce qui était médical. Même, je peux dire, j'ai fait un BEP sciences médico-sociales quand j'étais il y a longtemps. Alors, 2007, j'ai fait un BEP sciences médico-sociales où je voulais être soit infirmier ou soit éducateur. J'ai fait un stage dans un EHPAD, j'ai vu que je ne voulais pas faire ça, et j'ai fait un stage dans une maison d'enfants, qu'on appelle MEX maintenant, et j'ai vu que je ne voulais pas faire ça non plus. Donc je me suis, on va dire...
D'accord, et c'est ce qui t'a fait orienter vers les métiers plutôt artistiques ?
Ouais, voilà. Bah déjà je faisais du théâtre à ce moment-là, et puis après je me suis dit, tiens, pourquoi pas dans ce milieu-là, et puis après je me suis dit, ouais non, plus dans la technique, et puis je suis dans la technique maintenant, tout en faisant quelques petits rôles dans des courts-métrages. Avec l'équipe avec qui je tourne.
D'accord.
Voilà.
Ah, mais c'est intéressant. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'expliquer qui tu es, parce qu'on en verra de pourquoi je t'ai demandé aussi si tu étais. Enfin, je crois que c'est même toi qui m'avais demandé si on. Enfin, on en avait discuté de parler de ce que tu avais vécu. Et parce que justement, tu t'étais vachement intéressé à quel était ton cancer. Enfin, tu communiquais beaucoup et tu étais vachement curieux de tout ça et d'essayer de comprendre. Et maintenant, c'est vrai que tu comprends mieux aussi, tu vois, de savoir que oui, t'es quelqu'un de curieux, que tu t'étais vachement intéressé au côté médical, c'est aussi intéressant. Et de toute façon, on va revenir là-dessus, on va le voir, je pense, à travers l'interview.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Je pense qu'on peut carrément rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton parcours, du cancer, de la maladie que tu as eue.
Ouais.
Et parce que, comme tu as dit, tu es jeune. Je pense que beaucoup pensent, quand on pense cancer, qu'on a tous des... Enfin, beaucoup de personnes ont eu des proches, ou même là, des personnes qui nous écoutent sont en train de vivre, malheureusement, cette expérience. Et souvent, on pense à des personnes plus âgées. On ne se dit pas, à 30 ans, on peut
Totalement.
Avoir un cancer. Et du coup, je pense que ouais, ça pourrait être intéressant déjà avant de raconter comment toi tu l'as vécu, comment ça s'est passé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur quel type de cancer tu as eu?
Alors, en fait, tu veux savoir comment tout s'est déroulé ou je te dise comment
Non, plutôt. Non, plutôt avant justement de parler de comment ça s'est déroulé, plus de type, déjà quel type de cancer, est-ce que tu sais le type de cancer, où est-ce qu'il s'est logé, plus d'un point de vue scientifique, enfin pas vraiment scientifique
Oui,
non plus, mais
ok, c'est bon, j'ai.
voilà, tu vois ce que je veux
Ok,
dire?
c'est bon, j'ai le truc, j'ai mes petites feuilles, j'ai mon truc, mon compte rendu de consultation, j'ai ce qu'il faut. Ok, c'est bon, vas-y.
Ah bah parfait.
Alors, j'ai eu un cancer du thymus, pour être précis, un carcinome thymique peu différencié de type épidermoïde. Alors, je ne sais pas ce que signifie peu épidermoïde, voilà, j'ai eu ça, et c'était placé... Alors, au départ, comme on ne savait pas vraiment où est-ce que c'était dans la zone médiastinale, c'est-à-dire vraiment la cage thoracique. Donc, on disait un cancer du médiastin. Alors, c'était assez mystérieux et même moi, je ne savais pas pendant quelques temps ce que j'avais vraiment en fait. C'est plus tard qu'on m'a signifié que c'était un cancer du thymus.
D'accord. Je pense que je peux aider à introduire, tu disais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire, épidermoïde.
Ouais.
Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est un cancer. Donc, épiderme, c'est les cellules de la peau. Donc quand on parle de l'épiderme, on parle de la peau, et un épiderme, en tout cas un carcinome épidermoïde, c'est un cancer qui naît à partir des cellules de la peau, si je ne dis pas,
D'accord.
Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà.
Ok.
Est-ce que tu saurais nous dire, je pense que beaucoup ne savent pas, alors je pense qu'on a tous entendu parler du thymus, mais je pense que beaucoup ne le savent pas, est-ce que tu saurais nous dire où est placé le thymus dans le corps humain?
Alors le thymus, il est placé exactement juste derrière le sternum. C'est-à-dire entre les deux poumons, je crois que c'est devant le cœur, et un peu plus haut que le cœur, il me semble. Voilà, à peu près dans cette zone-là.
C'est ça, alors, je crois qu'il il est bien au milieu, effectivement, au niveau de la base du haut des poumons.
C'est ça.
D'accord, voilà, donc comme ça, je pense que les gens qui peuvent quand même visualiser, je pense que ça serait, ça peut un peu les aider.
On va dire que c'était pas hyper bien placé, quoi. Voilà, c'est pas le
C'est
le
vrai que ça peut faire, ouais. Oui, parce que, bon, on parlait justement de tout ce que tu as vécu. Effectivement, au niveau des traitements, j'imagine que, ouais, c'était... ça touche directement la cage thoracique. Et en plus, du coup, tu avais peur que... Enfin, toi, non, du coup, ça n'a pas touché les poumons, comme j'ai compris.
Non, absolument pas. Ça n'a rien touché.
D'accord. Mais effectivement, est-ce que tu as eu cette peur que ça se propage au niveau des poumons?
Oui, en gros, oui, je pensais que ça allait toucher les poumons, mais les médecins m'ont rassuré et m'ont dit qu'il n'y avait pas vraiment de chance que ça touche les poumons ou le cœur, après évidemment les examens. Avant les examens, ils ne pouvaient pas savoir,
d'accord.
Ils ne savaient pas du tout, quoi.
Ok. Ouais, je vois. Je vais faire une aparté, parce que je me suis rendu compte en posant ma question que peut-être... alors, il faut savoir, parce que j'ai posé ma question assez directe, on va dire que j'ai été directe dans ma question de « est-ce que tu as eu peur que ça ait touché les poumons ?» Peut-être que ça a été un peu direct pour certaines personnes. Simplement, sachez qu'en fait, on en a discuté avant qu'est-ce que tu voulais dévoiler, qu'est-ce que tu ne voulais pas. Ça fait depuis le début de ton processus, on en a quand même beaucoup discuté. Parce que du coup, on se connaît personnellement.
Oui, oui.
Et du coup, effectivement, on en a beaucoup discuté et je t'ai demandé déjà qu'est-ce que je pouvais te demander, qu'est-ce que je ne pouvais
Absolument
pas te demander pour
tout.
Être sûr. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais être assez. Je vais essayer de ne pas être si direct, des fois, d'avoir quand même de poser de manière correcte mes questions. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que des fois, mes questions vont être assez cash, on va dire, parce que justement, tu as dit que tu étais quand même assez ouvert pour
aucun
discuter.
Problème
parce qu'on va, là, on a aussi. Ce que d'ailleurs, je te remercie beaucoup, parce que justement, le but, en plus, comme je dis, c'est le but du podcast, d'essayer de. de mettre en avant les sujets tabous, les choses dont on ne discute pas forcément, qui ne sont pas alors que tout le monde vive.
Exactement. Et puis en plus, aussi bien pour les autres, moi je pense que c'est même mieux. Moi j'ai aucun tabou, de toute façon je te l'ai dit. J'ai aucun tabou, on peut parler vraiment de tout, vraiment de tout. Et je pense que c'est même un bien pour les gens qui vont écouter. Parce que souvent, quand il y a des tabous, on veut pas trop parler de ça, il y a des zones d'ombre. Et moi, j'ai vraiment l'envie de parler de tout. Et j'ai aucun problème avec ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Merci. Bon, merci. Moi, c'est vrai que je te remercie parce que c'est vrai que ça permet de. C'est un peu mon objectif, moi, quand je fais ce podcast, voilà, de lever un peu les tabous dans certains sujets. Donc, pour les personnes qui s'intéressent, moi, j'avais fait un premier podcast hors série sur la fausse couche, où pareil, j'avais parlé un peu sans tabou de bien l'expliquer. Maintenant, là, on parle vraiment du cancer. Donc, c'est pour ça que, voilà, ne prévenez pas peur et c'est normal, on en a discuté avant. Donc, les questions seront assez directes. On va vraiment rentrer. On va essayer de parler de tout ce qu'on ne parle pas habituellement, quoi. Donc voilà, c'était parce que je me suis dit, bon, les gens ont peut-être pensé que c'est un peu direct quand j'ai dit, bah oui, direct cash, oui, tu n'as pas eu peur. Donc, je voulais, donc on va commencer un peu à parler d'abord de quand, comment ça s'est passé avant que tu aies le diagnostic, comment tu l'as vécu. Est-ce qu'on pourrait quand même dater quand est-ce que ça s'est passé?
Bien
parce
sûr.
Parce que c'est assez récent quand même, on ne parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans.
Alors, j'ai eu les premiers symptômes. Il me semble que c'était le 14 avril dernier, 2023. Ouais, c'était le 14 avril 2023. C'est simple, j'étais au cinéma avec une amie et son copain. Et j'avais une douleur, une sorte de pression sur le côté gauche. Et comme je suis légèrement hypochondriaque, c'est ironique, je suis totalement hypochondriaque, bah j'étais. J'ai tout de suite pensé à un infarctus. Donc, je suis merde.
D'accord.
Je me suis dit merde, je vais mourir, ça y est, c'est la fin. Et donc je suis rentré chez moi et ça amplifiait, donc je suis allé aux urgences de Châteauroux, de là où d'où je viens. J'ai attendu très très longtemps pour que je ressorte avec une mauvaise un mauvais diagnostic, ce qui m'a fait revenir le lendemain où là ils ont vu avec les radios qui ont été faites la veille. Qui avait une masse de à peu près 8 centimètres, qui n'était pas normal en fait dans mon corps. Ouais. Voilà.
Ouais, donc ça, on parle de ça, donc c'est il y a un an. Là, justement, au moment où l'épisode va sortir, ça fera tout juste un an. Donc effectivement, c'est assez récent. Mais avant qu'on continue, où est-ce que tu en es même là actuellement?
Je suis en rémission, donc je me considère guéri. Non pas sans petites séquelles, hein, évidemment, mais on va dire que voilà, je suis guéri et surveillé pendant 15 ans sûr. Voilà.
Ok, donc déjà on peut te dire félicitations.
Merci.
Enfin, en tout cas, moi je vais te le dire parce que c'est un parcours du combattant pour pouvoir arriver à être en rémission. Donc,
je m'attendais pas à ça. Hein.
Donc félicitations déjà. Donc voilà, maintenant je pense qu'on va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc tu as commencé à nous parler un peu de comment ça s'est passé, des premiers symptômes que tu as eus. Donc effectivement, donc là tu parlais que tu avais une forte douleur qui ressemblait à un infarctus.
Ouais.
Et ensuite, qu'est-ce qu'ils t'ont fait comme examen? Enfin, comment ça s'est passé à partir du moment où tu es arrivé à l'hôpital?
Alors, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que j'ai été deux fois à Châteauroux pour le coup, parce que la première fois, on va dire que je me sentais pas très très bien. Je suis quand même fait l'effort. Puis bon, c'était pas une question d'effort, c'est que je sentais que j'étais un peu paniqué, donc je suis allé aux urgences. Alors je suis sorti le lendemain sans vraiment quelque chose de très très rassurant. Ils ont essayé de me rassurer en me disant que j'avais une déchirure musculaire. Bon, moyen quand même. Mais bon, bref. Et j'y suis retourné le lendemain où ça a été un peu plus loin parce que je pouvais pratiquement plus respirer. J'étais en panique totale, hein. Mais vraiment, en fait, je suis quelqu'un d'assez anxieux en général. Là, vraiment, l'anxiété j'arrive plus à trouver le terme, mais légitime. L'anxiété était totalement légitime. Donc, je suis retourné à l'hôpital. Ils m'ont fait des examens et puis quand j'ai su que j'avais une masse, j'ai décidé d'aller pas me faire soigner à Châteauroux, mais de me faire soigner à Tours, où je suis allé à Tours. Et là, ils m'ont fait.
Ils sont un peu plus spécialisés, ils ont un peu plus l'habitude
Oui, et beaucoup
de
plus
ce genre de ce
rassurant
type de cas.
aussi. Beaucoup plus rassurant. Franchement, je leur dois la vie. Vraiment, sincèrement. Parce que j'ai jamais vu une équipe aussi professionnelle que ça de ma vie. Hein. Parce que, bon, au début, j'arrive, ils connaissaient déjà mon prénom, j'ai déjà la chambre et tout. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se
Ah
passe?
oui.
Qu'est-ce qui m'arrive? Oula, c'est quoi cet accueil? Mais.
Oui, tu t'es senti vraiment bien accueilli, mis en
Ah ouais.
confiance, rassuré, quoi. Ce qui est très bien, mais en tout cas, on leur fait un petit coucou si jamais un jour une des personnes de Tours, de l'hôpital de Tours, nous
Ah
écoute.
ouais.
Je pense que ça peut faire plaisir aussi de savoir que des médecins, si jamais ils nous écoutent, voilà,
Ouais,
d'être remerciés et d'avoir ce sentiment-là.
j'ai été accueilli à l'hôpital Bretonneau, où je suis resté pendant quelques jours, pas une semaine, je crois, ouais. Ou peut-être pas, peut-être
D'accord.
ouais, 3-4 jours, où ils m'ont fait une biopsie, une petite biopsie, où ils ont prélevé via le dos trois morceaux, trois, comment on appelle, je sais plus comment on appelle ça. Je disais des morceaux, mais c'est pas des morceaux, c'est
Des biopsies?
des ouais, pour la biopsie, on appelle ça comment? Les morceaux de tumeurs, je sais pas trop comment on peut dire ça.
Je vois pas. Pour moi, c'est une biopsie quand tu prends un bout de tissu.
Bah
Alors peut-être qu'il y a un
des
autre
tissus,
terme
voilà.
médical.
Moi, on va dire le terme
Tu
tissu.
prends. Ouais, ils ont prélevé un bout de tumeur, quoi. Enfin,
Voilà.
de tissu, quoi. Je sais pas si y a un autre. C'est vrai que moi, bon, niveau de terme bien médical, c'est pas forcément ma spécialité, mais pour moi, j'appellerais. Quand tu me dis biopsie, c'est je comprends qu'on prend un bout de tissu au niveau de la tumeur.
Bon, en tout cas, voilà, ils m'ont prélevé plusieurs morceaux, bah, de cette masse, on va dire.
D'accord.
C'était envoyé en analyse et on va dire que c'était pas vraiment concluant. Donc, ils ont décidé de m'opérer. Et oui, chose que j'ai oublié de dire, en fait, la douleur que j'avais, en fait, au niveau des poumons et au niveau, parce que c'est au niveau du cœur, c'était un épanchement pleural et un épanchement péricardique, ce qu'on appelle aussi une pleurésie ou péricardite. Donc, c'est de l'eau autour du cœur et des poumons. Donc, voilà, c'était quelque chose
D'accord.
assez important. Donc, ils m'ont fait j'ai subi une intervention chirurgicale. C'était quelques jours après mon hospitalisation, donc ça devait être aux alentours peut-être du 20 avril. Sympa parce que le lendemain,
Ah oui, donc c'était quand même.
c'était l'anniversaire de ma maman le lendemain, donc
Ouais.
c'était pas un super cadeau
Oui.
d'anniversaire pour elle. Mais bon, ouais.
C'est vrai que oui, mais bon, après tu peux rien. Mais c'est vrai que c'était quand même très rapide
Ah
entre le
oui.
moment où tu as eu quand même les premières douleurs et au moment où tu es sur la table d'opération. Mais est-ce que à ce moment-là, ils avaient déjà mis le mot cancer ou tu savais pas trop? Tu savais,
Non,
bon, tu avais peut-être compris parce qu'on te parle d'une masse ou.
ils ont dit le mot. En fait, même ils m'ont jamais dit le mot cancer. Ils ont toujours dit
D'accord.
masse cancéreuse. Ils ont jamais dit vous avez un cancer.
D'accord.
Je pense que le mot est
Ah oui,
peut-être un peu
d'accord.
tabou dans la médecine. Je ne sais pas. En fait, bah, pas dans la médecine, mais pour
Peut-être que.
les patients. Peut-être que c'est pas pour faire peur. Je sais pas. Mais en tout
Oui, je pense que peut-être que pour l'annoncer, bah, c'est moins violent qu'on te
ouais.
dit bah vous avez une masse et on va vous la retirer que plutôt bah vous avez un cancer, c'est peut-être moins violent. Est-ce que toi, tu aurais préféré qu'on te mette les mots direct cash, on te dise bah monsieur, vous avez un cancer, on va vous opérer, ou
Ouais.
au final, au contraire, tu t'es senti plus rassuré?
Moi, ça, en fait,
Peu importe,
en
ouais.
fait, je savais que c'était un cancer. Enfin, je
Ouais.
savais, j'avais des forts doutes. Donc, quand il me l'a annoncé, c'est-à-dire 2 semaines plus tard. Mais
D'accord. Ah oui. Donc quand tu t'es fait opérer, là, tu savais pas que tu te faisais opérer pour un cancer.
non, parce qu'en fait, ils avaient pensé aussi à une maladie auto-immune, des choses comme ça. Donc, ils savaient pas trop. Parce qu'ils se
D'accord.
disaient, un cancer, dans cet endroit-là, ils m'ont dit, vous fumez? Je leur dis, bah, ça m'arrive en soirée. Ils me disent, donc vous n'êtes pas fumeur. Ok,
Ouais.
très bien. Vous buvez? Je fais, bah, ça m'arrive en soirée. Bon, c'est pas buveur.
Oui,
Votre
voilà, c'est occasionnellement, quoi.
régime alimentaire, bon, je suis pas le meilleur, mais voilà, je mange normalement. Je m'étais même dit au sport, donc normalement, je veux dire que pour eux, ça leur paraissait assez étrange que ça soit ça, quoi.
Oui, c'est vrai que t'étais plutôt sain, on va dire, dans ton hygiène de vie. Donc, mais quand ils t'ont opéré, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré la tumeur
Non, pas du tout. En fait, l'opération, c'était une biopsie et ils m'ont en fait enlevé l'eau qu'il y avait autour du cœur et des poumons. Donc j'étais un
Ah
peu
oui, d'accord, c'est
branché de
vraiment juste
partout.
pour l'épanchement.
En fait, j'ai été ouvert sur les deux côtés, en fait, de la cage thoracique. pour faire biopsie, plus l'épanchement pleural et périgardique. Et ils m'ont prélevé, je crois, 12 ou 13 mon petit morceau de
D'accord.
cette masse, quoi.
Ah oui, ouais, donc d'accord. Et donc là, on est à une semaine, donc là, tu sais pas encore, donc tu viens de dire que ouais, tu t'en doutais. Mais comment tu te sentais, on va dire, plus psychologiquement? Donc là, on avait plus l'info physiquement, mais psychologiquement, tu étais dans quel état?
Alors, quand je suis allé à Tours, j'étais rassuré. Parce que je savais que j'étais tout de suite été
D'accord.
rassuré quand j'étais à Tours. Mais le lendemain de l'opération, c'était le lendemain, juste après l'opération, au réveil, c'était très très compliqué. Parce que je pensais qu'il y avait des amis ou ma famille qui seraient venus me voir. Et en fait, il était tard parce que l'opération,
Ah oui.
l'intervention chirurgicale a duré 4 heures à peu près. Juste pour la biopsie, parce qu'en fait, changement de matériel stérile, etc., etc., donc ça a mis du temps. Donc ouais, ça a été assez éprouvant. Et puis je suis quand même resté à l'hôpital pendant, oui, 2 semaines, presque 2 semaines. Donc, parce qu'en
Ouais.
fait, j'étais vraiment branché de partout. J'étais sous oxygène. Je suis parti, je crois, une semaine après l'intervention. Non, je sais plus, peut-être une semaine et demie à peu près. En fait, j'aurais pu partir plus tôt, mais j'oxygénais pas assez. J'étais genre à 85% d'oxygénation, ce qui n'est pas énorme en fait. En fait, il faudrait que
Ce qui est déjà, qui commence à être très faible, ouais.
Ouais, donc il fallait que je sois au moins à 98, 97%. J'ai même, quand je suis rentré, j'étais même sous oxygène. Oula, quand je suis rentré, j'étais même sous oxygène chez mes parents parce que je devais être sous surveillance.
Ouais, puis tu disais que moi, tes proches n'étaient pas venus, mais c'est vrai que du coup, t'es pas de Tours même non plus. T'as pas, si je me trompe pas, ta famille n'est pas à Tours.
Non,
Donc.
non, non, j'ai une amie, j'ai 2 amies qui sont venues me voir, une qui est venue me voir tous les jours. Si elle écoute, je lui fais un salut, puis elle se reconnaîtra de toute façon. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que quand on est
Ouais.
dans une salle, avec des gens, très gentils, hein, évidemment, on est plus jeune et on voit des gens qui sont très malades. Et on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on comprend pas.
Ouais, c'est déroutant, hein, là. Et
Ouais.
puis, tu viens de subir une opération, tu sais pas trop encore ce que t'as. Enfin, donc, c'est vrai que ça peut. C'est vrai que voilà, on parle. Puisqu'on met jamais. Rarement en avant l'entourage aussi, mais c'est vrai que dans ce genre d'épreuve, l'entourage est aussi très très important d'être accompagné. C'est vrai que ça aide, c'est une grosse part, le psychologique, je pense, pour battre ce genre de maladie. Et justement, tu disais que ouais, tu étais un des plus jeunes du service, donc on disait que déjà, ouais, ça a été jeune hein, pour avoir un cancer, mais est-ce que pour ce type de cancer, tu sais si c'est quand même assez courant à ton âge ou c'est quand même très très rare?
C'est rare, c'est très rare. J'ai eu juste le retour d'une personne qui a eu la même chose et qui, hélas, ne s'en est pas tirée.
Ah oui, d'accord.
Connaissance de connaissance de connaissance, tu sais, tu connais quoi, les genres de choses.
Ouais.
Mais voilà, non, c'est assez rare.
Oui, non, je pense que c'est pas forcément un des cancers les plus courants. Donc, comme dit, souvent on pense au cancer du poumon, mais c'est vrai que le cancer du thymus, c'est pas forcément. Enfin, au niveau du thymus, c'est pas dans les cancers les plus courants. Et je pense qu'effectivement, à ton âge, c'est encore moins courant. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi cet épisode pour des fois montrer des fois les signes. On fait pas forcément. C'est vrai que moi je me dis à 30 ans, je fais pas forcément attention à tous les signes. Je pense qu'on est moins alerte pour les signes, des signes similaires que quand on avait 50 ans.
Oui, et puis qui plus est, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que le thymus disparaît à la puberté. Après la puberté, en fait, il disparaît pas entièrement, mais on va dire qu'il rétrécit. C'est vrai que le thymus, ouais, c'est ça qu'on n'en a pas parlé, mais c'est que le thymus, c'est les défenses immunitaires,
Oui, j'y ai pensé en plus.
c'est les défenses immunitaires. En fait, moi, je sais, c'est quoi, c'est le thymus, c'est quoi ce truc? En fait, c'est ce qui permet les défenses immunitaires des 0 jusqu'à 17, 18 ans, à peu près, maximum. Et après, en fait, ça reprend, c'est les autres glandes qui servent pour ces défenses-là, qui prennent le relais. Mais il rétrécit, puis il devient, comme on dit, inutile, quoi, obsolète, si on peut dire ça comme ça.
Oui, il reste, on va dire, quelques traces du thymus, voilà. Mais dans sa majorité, il est. Mais c'est vrai que j'y ai pensé quand je t'ai demandé est-ce que tu peux me le situer. J'avais pour objectif d'introduire ce que c'était le thymus et puis on est passé sur autre chose. Donc tu vois, tu fais bien de revenir là-dessus, donc je suis désolée. Et effectivement, oui, donc normalement là, c'était vraiment des traces. On est plus censé avoir ce gros organe. Mais toi, du coup, comment ça se faisait? C'est que toi, ton thymus n'avait pas rétréci ou c'est juste à cause des traces du reste du thymus que tu avais que ça s'est développé en cancer.
Ah bah non, il s'est agrandi. Faut te dire,
D'accord. Ah oui.
En fait, non, je rigole un peu tout ça, mais pour dire, la tumeur faisait à peu près 12 centimètres, en fait. En fait, quand j'étais à l'hôpital la première fois, c'était 8, mais avec
Ouais.
l'IRM, ça a été 12 centimètres. Donc c'est énorme.
D'accord,
C'est
ouais,
assez.
ouais, c'est déjà c'est quand même une grosse tumeur à ce moment-là, ouais. Donc c'est, ouais, d'accord, donc c'est à partir de cellules qui restaient, donc ça s'est transformé en une tumeur, ça s'est développé en un thymus cancéreux, quoi. C'est pas une
C'est
tumeur
ça.
qui, c'est pas ton thymus qui s'est reformé
Ah
et
non.
qui ensuite s'est transformé en tumeur, c'est vraiment les cellules qui se,
C'est
ouais.
ça.
D'accord. Et donc là, tu disais qu'à ce moment-là, où tu t'es fait, une fois que tu as eu l'opération au niveau des biopsies, pour faire tes biopsies, comment ça s'est passé ensuite? Bout de combien de temps on t'a donné un diagnostic? On t'a dit que là, c'était un peu plus grave que ce que tu pensais?
Alors, déjà, je suis rentré chez moi. Ça devait être aux alentours de 27 mai dans ces eaux-là. Et quelques jours plus tard, on m'a appelé pour me prévenir que j'avais rendez-vous à l'hôpital pour déterminer ce que j'avais. Et ça a duré à peu près 2 semaines. Et c'était horrible. En vrai, c'était horrible parce que pendant 2 semaines, on sait pas ce qu'on a. Bon, déjà, il y a une gourde de l'hôpital de Châteauroux qui m'ont appelé pour me dire que je devais avoir une chambre implantable qui devait être posée. Une chambre implantable, pour ceux qui ne savent pas,
D'accord.
c'est un petit appareil où on pose la chimiothérapie. Bon, j'ai pas eu ça de posé, j'en parlerai après. Mais pour le coup, je suis 2 semaines plus tard, donc on va dire c'était début mai, je retourne à Tours où là, on m'annonce que j'ai un cancer du thymus, pas du thymus, mais un cancer placé au médiastin, quoi.
D'accord, donc ouais, c'est vrai que c'était 2 semaines, ce qui est quand même pas si long, parfois ça peut être plus long, donc c'est
Ah
vrai que,
ouais?
mais ça reste 2 semaines horribles, quoi. C'est vrai que t'es là à t'inquiéter, tu attends de savoir ce que t'as, quoi. Donc toi, comment psychologiquement, t'étais dans quel état?
Je t'avoue que c'est cette période-là dont je ne me souviens plus tellement. Je pense que le cerveau
D'accord.
a fait un petit, un petit, ouais,
Ouais.
c'est bloqué à ce moment-là. Je me souviens plus vraiment. C'était compliqué. En fait, c'était l'attente. Je pense que j'étais un peu en mode déni à ce moment-là, parce que
Ouais.
de mes souvenirs, ça allait. En fait, bon, j'étais sous surveillance,
Bah
hein,
peut-être
évidemment,
que
mais bon.
tu te protégeais, ton cerveau devait te protéger aussi, comme tu dis. Des fois, c'est une manière de se protéger. Le cerveau réagit comme ça pour quand les nouvelles sont trop trop importantes, il y a une phase de déni ou d'amnésie pour justement se protéger. Donc peut-être qu'effectivement, tu étais des fois on a l'impression quand on a des nouvelles de ce type-là, on est un peu second à son corps,
Ouais.
comme si on était là, mais sans être là, c'est une forme de protection. Et donc, une fois qu'on t'a rappelé pour te donner le diagnostic, comment tu as réagi? Est-ce que tu étais soulagé de savoir ce que tu avais enfin, ou au contraire, là, on te met les mots et tu dis, ah ouais, quand même.
En fait, je pense que j'ai fait face au diagnostic, parce que déjà, je pense que inconsciemment, je m'étais apprêté à ça. Déjà, j'avais reçu l'appel de cette. C'était une erreur, hein, c'était pas à Châteauroux de m'annoncer ça, c'était à Tours. que
Ah
j'avais.
oui, je viens de comprendre. En fait, ils t'ont appelé avant d'avoir le diagnostic pour te dire que vous allez avoir cette chambre
Ouais,
ambulatoire.
donc c'était une énorme erreur
Ah
de
oui,
chapeau.
d'accord.
Et c'était
J'avais pas
à.
compris, excuse-moi. Ouais,
T'inquiète,
ils
t'inquiète,
te l'ont
vas-y.
dit avant même que
Ouais.
toi tu comprennes que t'as un. Ah ouais, c'est vrai
Ouais,
que t'es en mode. Ah, d'accord.
mais en fait, j'avais des doutes déjà, mais là, ça c'était un peu. Bah, c'était vérifié, quoi. C'était.
Ouais.
Ok, j'ai ça. Donc, je suis allé à Tours en mode, bon, allez. On y va. Allez, c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais dans ma tête, c'était vraiment, je me suis mis
Ouais.
en mode, réfléchis pas, fonce. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, qui pense tout le temps, qui se pose des questions tout le temps. C'est un enfer. Je le dis, c'est vraiment chiant. Mais là, j'étais vraiment en mode, bon, allez, on réfléchit pas, tu y vas, ils sont bons, ça va le faire. Donc, j'ai été
Ok,
à.
ouais, tu t'es vraiment mis en mode combattant dès le début, quoi. Tu dis, allez, là, c'est bon,
C'est ça.
je vais combattre, quoi. C'est ouais.
Ah bah de toute façon moi c'était hors de question que je laisse cette maladie gagner. C'était hors de question.
Non, mais c'est une farce. Hein. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est au moins dès le début, avant même d'avoir le diagnostic, tu t'es dit, là, c'est bon, on va affronter ça. Et c'est aussi, je pense que psychologiquement, tu vois, je pense que ça peut aider, tu vois, plutôt que de. Parce que je pense que tu peux aussi avoir des personnes, au contraire, vont avoir l'annonce et au contraire,
C'est
tu peux
ça.
être aussi complètement effondré, quoi.
Bah en fait
Donc,
il y a
ce qui est
le.
aussi tout à fait normal. Hein. Si ça arrive à des personnes qui nous écoutent, c'est aussi tout à fait normal d'avoir des. Bah, c'est dur comme annonce, quoi.
Ouais. Et en fait, c'est aussi moi, je suis un peu de l'école de il y a toujours le choix. C'est un peu extrême hein, ce que je vais dire. Mais c'était soit je meurs, soit je vis. Voilà, j'avais deux choix. Soit je meurs et je fais
Ouais.
rien. Et après, de toute façon, je pense que ma famille et mes potes, ils auraient dit hey, t'arrêtes, tu fais pas le con, ah, c'est bon. Et ils auraient eu raison. Et de toute façon, j'aime trop la vie pour ça. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais sans doute morfler, mais je vais me battre, et puis je vais tout faire pour quoi.
C'est bien, j'espère que ça peut aussi encourager des personnes qui nous écoutent et qui vivraient ou qui commenceraient à vivre ce genre d'expérience de dire faut se battre quoi. Parce que c'est pas forcément facile
Non, 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 non. Ah non, non, je dis pas que c'est facile,
de
hein.
se battre. Ouais.
Je dis pas que c'est
Ouais.
facile.
Ah oui, non, bah, bien sûr. Oui, et puis mais c'est vrai que pour mettre dans le contexte, enfin, ça me fait un peu écho parce que je pense que même si jamais, bon, toi de là, tu as la chance d'être, on va dire, enfin, de la chance. Je pense aussi, tu as la chance d'être en rémission. Et
Oui, totalement.
effectivement, je pense qu'au moins, si jamais ça ne s'était pas bien passé, au moins, tu aurais pas eu de regrets aussi je pense que, enfin, je dis ça parce que moi, je parle en connaissance de cause où il y a pile un an aussi, où toi, tu apprenais que, en tout cas, tu avais les premiers symptômes, je m'en rappelle, et tu apprenais que tu avais un cancer. Moi, à ce moment-là, je venais de, bah, j'ai perdu mon papa, mon père à ce moment-là. Donc fin mi-avril et en fait je dis ça parce que c'est vrai que bah, lui au contraire bah, même malheureusement donc là il est décédé mais il s'est battu aussi jusqu'au bout et je pense qu'il n'a pas eu de regret de ce côté-là de se dire je vais me battre jusqu'au bout contre la maladie et jusqu'à ce que vraiment là il y a plus de limites et au moins t'essayes tout quoi et plutôt que de pas essayer et peut-être qu'après tu peux avoir des regrets. Alors je dis ça sur une note un peu moins joyeuse, mais je dis ça justement pour les personnes qui nous écouteraient, qui seraient actuellement en train de se battre, peut-être pour les encourager,
Bien sûr.
de se dire bah au moins tu vois que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, au moins si jamais malheureusement une personne doit partir, elle partit. Enfin je l'ai vu avec mon père, au moins il n'y avait pas de regret de ce côté-là, il avait vraiment tout donné. Il s'est battu vraiment, je pense qu'on ne pouvait pas plus se battre que comment il se battait. Et je sais que de ce côté-là, il n'avait pas eu de regret. Il avait vraiment tout donné pour essayer d'aller au mieux. Et je pense que ça aide malheureusement à partir quand tu donnes tout et que tu t'es battu jusqu'au bout et que malheureusement ça passe pas quand même. Au moins, ça t'aide à te dire bah, de toute façon, voilà, c'était comme ça et je ne pouvais pas faire mieux.
J'en suis convaincu.
Donc voilà, c'était plus le message. Ouais, c'est plus le message que je voulais faire passer. Si jamais ça peut aussi encourager des personnes à se battre, parce que comme tu dis, c'est pas facile et ça doit être difficile. Enfin, je l'ai pas vécu personnellement. J'ai vu mon père le vivre, mais ça doit pas être facile psychologiquement de se battre tous les jours. Je pense qu'il y a eu dû avoir, t'as dû avoir des moments de doute. Je sais pas. Je te pose la question. Du coup, est-ce qu'effectivement il y a eu des jours où tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de se battre?
J'ai eu aucun moment de doute. C'est ça qui est
Ok.
fou. Pourtant, je suis quelqu'un qui
Ouais.
doute très souvent sur plein de choses. Et c'est fou parce que depuis, j'ai même moins de doutes. Mais pour cette maladie-là, j'ai eu peur, évidemment. Je ne vais pas dire que j'ai pas eu peur. Évidemment, j'ai eu peur. Voir dire que non, non, j'ai peur de rien,
Ouais.
c'est faux. On a je pense que tout le monde qui a cette maladie a peur, c'est normal. Mais j'ai eu aucun doute. Et en vrai, merci les amis, quoi. Merci les amis. Bon, la famille, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de l'émotionnel qui rentre plus là-dedans. Mais oui, vraiment, il y a le fait de ne pas avoir de doute. Il y a aussi la motivation, les encouragements. Les encouragements, et on en parlera sans doute plus tard par rapport à ça, les amis et les médecins, ouais. le service hospitalier qui a été incroyable m'a vraiment rassuré par rapport à ça. Et
okay.
Franchement, rien à dire, quoi.
Ouais, non, mais c'est. Ouais, donc ça t'a aussi beaucoup aidé à tenir le cap, quoi. Je pense que ça montre bien que l'entourage joue beaucoup, enfin, t'aide t'aide, va pas t'aider à te soigner, en tout cas, ça c'est pas. Mais en tout cas, t'aide à pouvoir combattre et tenir face pour pouvoir suivre les traitements. Parce que justement. Ouais, pardon.
Ce qui est fou aussi, c'est que tu vois, tout à l'heure, on disait que tout le monde qui avait cette force-là. Moi, je pense que tout le monde a cette force. Ça, j'en suis sûr, ouais. Que tout le monde a cette force. Parce que j'ai des amis qui me disaient, punaise, t'es courageux. Franchement, je sais pas si je pourrais le faire à ta place et tout. Mmh. Il y a quelque chose que les gens oublient. On a un instinct de survie qui est incroyable, en fait. Et l'instinct de survie, c'est presque plus fort que tout. Et je pense que quand ça rentre là-dedans, on peut soulever des montagnes, quoi.
Effectivement, comme tu dis, si comme toi tu disais que t'aimes la vie, je pense qu'à partir du moment où on aime notre vie avant d'avoir ce diagnostic-là et on a envie de vivre avant de l'avoir, il y a cet instinct de survie qui nous porte, quoi. Et je me demandais, enfin avant qu'on, j'allais te poser des questions sur ton diagnostic, mais justement avant que tu j'allais te poser des questions sur les traitements que tu as eus. Mais avant de poser, justement, je me suis dit, là, au moment où on t'a annoncé, en tout cas, même si on n'a pas mis les mots sur le cancer, mais au moment où on t'a dit un peu en plus en détail ce que tu avais, est-ce qu'on t'a quand même suffisamment informé ou tu as dû faire tes propres recherches? Alors, je sais que tu as fait, me semble, tes propres recherches de ton côté. Comme tu disais, tu étais curieux et tu en as beaucoup parlé aussi sur les réseaux.
Ouais.
Mais est-ce que toi, on t'avait beaucoup informé ou au contraire, tu es sorti de l'hôpital et tu étais quand même perdu? Tu ne savais pas trop ce qui t'arrivait?
Après le diagnostic
Oui.
Oui, j'étais quand même suffisamment informé. Ouais, j'étais suffisamment informé. Mmh. Ils m'ont précisé ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, quand ça allait se passer, voilà, tout ça.
Mmh. Ouais, t'étais pas perdu. Tu savais ce qui allait t'arriver dans les prochaines semaines, voire mois.
Ouais, déjà ça. Et puis, alors, en tout cas. Bon, j'étais sous chimiothérapie et en fait, je ne savais pas ce qui allait se passer après la chimiothérapie. Ça, je ne savais pas.
D'accord.
Parce qu'en fait, après, il faut d'autres examens pour savoir si la chimiothérapie a bien fait son travail ou pas.
Oui, c'est ça. De toute façon, même les médecins, ils ne peuvent pas savoir. Enfin, on va déjà essayer étape par étape parce que dépend. Ça peut être tout rien, quoi. Soit la chimio, ça passe, soit ça ne fait pas du tout son effet. Et justement, donc là, tu parles de ta chimio. Qu'est-ce que. Déjà, quand est-ce que. Donc là, on est début mai.
Ouais, début mai.
Je ne me trompe pas, d'un point de vue temporalité.
On devait être vers le 10, un truc comme ça.
Ok. Et donc, du coup, à partir de quand tu as commencé les traitements et quel type de traitement tu as fait dès le début?
Alors, j'ai commencé le 23 mai, chimiothérapie.
Ok, ouais, donc vraiment 10 jours après, directement. Quoi.
Voilà. C'est... Retour à tour, petit jeu de mots. je fais une séance de chimiothérapie. C'est impressionnant parce qu'en fait, c'est trois produits différents qui sont mis dans le corps. Ah, mais attends! Non, mais j'ai oublié de dire quelque chose.
Ouais.
Avant.
Non, bah vas-y.
Avant la chimiothérapie, juste avant, quelques jours après même le diagnostic, ils m'ont posé un PICC line. Alors un PICC line, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de perfusion permanente. Voilà, une perfusion permanente qui est mise dans le biceps et qui remonte pour aller jusque dans une En fait, qui est posé dans une veine, la veine du bras droit. C'était le bras droit pour moi. et qui montait jusqu'à dans une artère. Et en fait, ça sert pour la pose de la chimiothérapie, parce que les produits chimiothérapie sont assez violents, hein, clairement, et ne peuvent pas être injectés directement dans les veines, parce que bah, c'est pas bon en fait pour les veines. Donc c'est pour ça qu'ils posent directement un PICC line avec une sorte de tube qui remonte jusque dans mon cœur en fait. Donc j'ai été,
on m'a... Ah oui, ça va loin.
Ah oui, bah, ouais, j'ai même une vidéo, on voit quand ils me l'enlèvent, c'est très long, c'est impressionnant. C'est pas douloureux quand il enlève, hein. Et j'ai fait ah ouais, d'accord, ah d'accord, ok, c'est impressionnant. Mais en tout cas, voilà, j'avais ça dans le corps et ça permet, bon, ça, pendant 2 mois j'ai eu ça, donc c'était vraiment pas pratique, d'accord. Parce que pour se doucher, il fallait que je mette un truc dessus pour pas que l'eau passe et tout. Toutes les semaines, il y avait une infirmière qui venait me changer le pansement. Il s'est bouché 2 fois, c'était vraiment un calvaire, ce truc. C'était pénible, mais bon, c'était pour la bonne cause.
Ouais, mais c'est vrai que c'est important, comme tu dis, c'est important de le mentionner, quoi, parce que les personnes qui le vivraient prochainement, se rendent compte de ce que c'est. Et est-ce que physiquement tu le sentais, même au niveau de ton bras, est-ce que ça te gênait, en plus du fait que ça soit chiant à vivre au quotidien, est-ce que physiquement tu le sentais?
Le seul truc que tu sentais, c'était le pansement qui était collé sur ta peau, en fait, c'était ça qui était...
D'accord.
Voilà, tu sentais qu'il y avait une boule, pas une sorte de boule, c'était le pansement qui était comme ça, c'était vraiment pas pratique, c'est juste ça. Mais en fait, c'était ce qu'ils devaient me mettre à l'origine, c'était un dispositif implantable, mais finalement, ça a été le PICC line. Voilà. Et en vrai, c'est mieux, parce qu'après, le dispositif implantable, ça reste pendant plusieurs années, il faut l'enlever. Là, c'était comme ça. Et puis, jusqu'au moment où ils m'ont mis les produits via ce PICC line, où j'ai eu 3 produits.
Oui.
Je me souviens plus des noms des produits, je m'en souviens plus, mais c'était...
Ouais, non, mais après, de toute façon, en plus, ça change, les produits changent en fonction des types de cancer et tout ça, donc...
Ouais, c'était donc, pas agréable du tout.
C'est jamais les mêmes types de produits, donc...
C'était pas agréable du tout,
du style, après, une fois que t'es... Alors, je pense que beaucoup savent qu'une fois que t'es en chimio, t'es très malade, tu dis que c'est pas agréable le après, justement, de... toutes les maladies ou pendant le traitement, au moment où on t'injecte.
Dès le début, en fait, dès qu'on m'a injecté, ça allait, mais c'est vraiment à la sortie de l'hôpital où là, je commençais à être légèrement nauséeux.
Ça agit rapidement.
Ça agit rapidement, mais c'est là aussi où pour ceux qui ont déjà fait de la chimio savent, c'est en tout cas c'est le personnel est très rassurant parce que ils expliquent comment ça va se passer, ce qu'il faut faire, les aliments qui sont interdits parce que moi j'avais 2 aliments qui étaient interdits et quand je pose la question les gens ne trouvent pas généralement parce que c'est quand même assez particulier.
Il y a le pamplemousse.
Yes, le pamplemousse et...
J'ai plus...
La question.
Le pamplemousse, je sais, parce qu'il y a une protéine ou une enzyme qui s'appelle P450, quelque chose comme ça, qui agit justement et qui contrôle... qui contre le produit, je crois.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises.
Toi, ça m'a pas dérangé, j'aime pas le pamplemousse.
Ouais, c'est dans mes cours. J'avais appris ça à la fac. Je ne sais plus trop exactement pourquoi. J'aurais dû réviser.
Le deuxième, c'est une plante. C'est le millepertuis. Il me semble.
D'accord. Ok.
Il me semble que c'est le millepertuis.
C'est pas un truc courant.
Mais voilà, c'est tout qu'on met dans le thé, généralement, un truc comme ça. Mais en tout cas, pamplemousse, voilà. Mais ouais, et les médecins m'ont même dit « Alors, ne mangez pas ce que vous aimez aujourd'hui ni demain. » Je me disais « Pourquoi ?» En fait, parce qu'en fait, ça va, votre cerveau va assimiler ce que vous mangez aujourd'hui et demain avec la chimiothérapie. Et ce qui est fou, c'est que j'ai mangé un moelleux au citron. Heureusement que c'était pas une tarte au citron, parce que c'est mon dessert préféré. Mais j'ai mangé un moelleux au citron.
T'étais quand même proche, t'étais pas non plus éloigné.
Il y a une différence quand même. Mais en tout cas, je ne peux plus manger. T'inquiète. Mais en tout cas, je ne peux plus manger de moelleux au citron. Impossible.
Ah ouais, c'est tout ce qui est aversion, hein, c'est sûr. Toutes les aversions alimentaires, souvent, c'est quand on assimile quelque chose de positif à un événement négatif, on va l'assimiler, quoi. C'est comme ça que.
Le cerveau est bien fait.
C'est marrant, j'allais dire, c'est pas vraiment marrant, mais c'est vrai que
c'est curieux, quoi.
Que de maintenant que tu ne peux plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir, tu vois. Oui, j'y aurais pas pensé aussi. Et donc là, une fois que tu sors de ton traitement, comment tu te sens physiquement?
Alors, j'étais légèrement nauséeux. C'était l'ambulance qui nous ramenait, je me souviens. Ma mère, mon beau-père et moi, jusqu'à chez eux. Le soir, c'est le soir où, ça, dès que je commençais à rentrer, boum, nausée. Et là, c'était pendant 4 jours, c'était l'enfer. Oh, vraiment. Vraiment, c'était pas cool du tout. J'en rigole maintenant parce que voilà, j'ai le recul. Mais après, j'en ai rigolé aussi sur le moment parce que j'ai vraiment voulu prendre ça d'une façon le plus positive possible. J'en ai vraiment parlé énormément sur les réseaux. Hein. Toi, t'as bien vu comme tu m'as sur les réseaux. Mais c'était les nausées, c'était vraiment pas ouf. Et en fait, à chaque fois quand un symptôme disparaissait, il y en avait un autre qui arrivait juste après.
Ouais. Ouais, t'étais jamais tranquille, quoi. Chaque fois, c'était quelque chose de nouveau qui revenait, quoi. Et au niveau... Alors là, on parle surtout de tes nausées. Est-ce que tu étais fatiguée? T'avais des maux... Enfin, est-ce que t'avais d'autres désagréments que les nausées?
J'ai compté, j'ai eu 6 symptômes, en fait. J'ai eu les nausées.
D'accord.
Les nausées. Après, j'ai eu une journée, j'ai eu de la tachycardie. Non, je restais pas en place.
D'accord.
J'avais l'impression d'être une pile électrique. C'était horrible. Donc là, j'avais plus du tout de nausée. C'était le lendemain. Et après, j'ai eu, pendant bien une semaine, j'ai eu de l'hyperacousie. Ça, c'est hyper étrange. C'est-à-dire que tous les bruits étaient amplifiés. C'était un enfer. C'était un enfer. Ouais. C'était le pire. Pour moi, c'était le pire. Parce que les nausées, bon, c'est horrible. Hein, voilà. C'est-à-dire que l'hyperacousie, ça jouait sur les yeux. C'est très étrange parce que même j'arrivais pas, il fallait que je sois dans le noir. C'était très étrange. Donc, j'avais ça, j'avais ma maux de crâne, la fatigue. Et puis, quelques semaines plus tard, évidemment, la perte des cheveux. Les cheveux qui sont tombés. Donc quand j'ai vu que les cheveux commençaient à tomber, je me suis dit bon, j'ai pas envie de ressembler à Gollum, donc j'ai pris une tondeuse et un copain et moi il m'a tendu la tête, donc ça a été.
Et comment tu l'as vécu ce moment-là au moment où tu dois te raser les cheveux, comment t'étais, dans quel état psychologiquement?
En vrai. Aucun problème. Au début, je me suis dit, mon Dieu, quelle gueule je vais avoir. Ça va être horrible. Et finalement, je me suis dit, c'est pas si mal. Ça va, les cheveux rasés comme ça, ça va. Bon, après, voilà, je suis un homme.
C'est vrai que ça t'allait plutôt bien. Mais oui, non, mais c'est vrai. Oui, c'est peut-être plus facile. Mais je pense que c'est aussi, c'est montre physiquement. C'est que ça doit être pas facile aussi, que là, c'est vraiment physiquement, tu vois aussi, c'est un signe de maladie, quoi.
Ah, tu vois, j'ai perdu la barbe.
J'imagine, c'est ce que je me dis.
J'ai perdu ma barbe. C'est plus. Alors, j'ai pas perdu mes sourcils. Parce que souvent, ils disent les sourcils, c'est ce qui choque, en fait. C'est ce qu'ils voient quand une personne est malade ou qui a fait de la chimio. Moi, j'ai pas perdu mes sourcils. Et pourtant, les produits qui m'ont mis, comme ils ont estimé que j'étais une personne qui était saine, j'avais une vie saine, etc., ils m'ont mis la dose la plus forte. Donc, j'aurais dû perdre mes sourcils, en fait.
Ouais.
Donc, je les ai pas perdus. Donc, tant mieux. Donc, ça n'a pas vraiment.
C'est déjà ça, on va dire.
On voyait sur mon visage que j'avais quelque chose. Déjà, j'avais plus de barbe. Et puis, j'ai perdu énormément de poids. Hein. J'ai perdu à peu près 10 kilos. Hein. Je faisais. 8 kilos, je crois. Je faisais 67 kilos. J'ai dû redescendre à 58, donc 9 kilos, pas précis.
Ouais.
À peu près. Donc ouais, c'était pas...
Oui, ce qui est... Ouais, parce que je veux dire, t'es pas déjà... t'es pas non plus corpulent de base, quoi. Enfin, t'avais pas beaucoup à perdre, quoi.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça peut être impressionnant, quoi. Tu perds tout ce poids.
Et puis aussi, je pense que c'est un truc, mais perte d'appétit. C'est un symptôme. Donc pendant toute la période de nausée, impossible de manger quelque chose. Je me souviens, ma sœur m'avait donné des fraises de son jardin, c'était adorable. Mais j'en ai mangé trois. Pff, 3 heures plus tard, elles étaient dans le fond des toilettes, hein, c'était pas possible, quoi. Donc, non, 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 c'était.
Ben, je pense que c'est un peu relié, enfin, que de toute façon, quand tu as des nausées et que rien ne passe, ton corps, justement, refuse les aliments parce qu'il sait qu'il va tout rejeter. Donc, psychologiquement, tu ne peux pas les manger. Enfin, je me dis ça, tu vois, genre, je pense que c'est lié entre les nausées. Parce que je me dis, si ton corps, tu vomis tout le temps, il va pas se dire, tiens, je voudrais manger ce truc-là, même si je sais que derrière, je vais le revomir. Non, au contraire, il va dire, non, 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 parce que ça ne va pas passer.
Et tu vois, moi, je le voyais pas d'une façon négative, ces symptômes-là. Parce qu'en fait, je me disais, OK, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça fait effet sur mon corps. Donc ça veut dire que c'est en train de déglinguer cette tumeur de merde. C'est ce que je me disais, hein. Je me disais, je vais la déglinguer, rien à foutre.
Ok, ah, c'est
Voilà.
intéressant
C'était
comme point de vue, tu vois.
c'était mon point de vue, en fait. J'étais tellement dans cette optique-là de pas, en fait, je voulais pas être négatif. Vraiment, je voulais pas être dans ce truc. Ah, mais j'étais en mode, bon. C'était horrible, hein. Et puis bon, il y avait ma mère qui était là, elle me disait, allez, t'inquiète, ça va le faire. Bon, c'était très dur pour elle aussi, hein, voir son fils de 33 ans.
Bah oui, je pense que
Voilà.
ça doit être plus
Et
dur, quoi,
puis
de quand c'est ton fils, quand c'est ton enfant,
puis
quoi.
comme je mangeais pas, elle disait, mais mange, mange. Et puis, je disais, mais dès qu'elle me disait le
Bah
mot
oui.
manger, je ne pouvais pas. C'est une très bonne cuisinière. Et l'odeur de nourriture qu'elle faisait, ça me dégoûtait. Je pouvais pas manger, donc non, non, non,
Ah ouais.
c'était terrible. Non, non, vraiment, c'était vraiment la période la plus compliquée. C'était cette période de première chimiothérapie. Et en fait, je crois que c'est une des infirmières. Qui, pendant que je me faisais poser, bah, quand on changeait le pansement du PICLINE, m'a parlé en fait de l'acupuncture. Et j'ai été voir un acupuncteur, j'ai fait plusieurs
D'accord.
séances, et il me semble que, attends, je vérifie sur mon téléphone, c'est ça, c'était le 21 juin, deuxième chimiothérapie. Je refais bah, cette deuxième séance. Et les symptômes ont été fortement réduits, en fait. C'est-à-dire que de 4 jours, les nausées sont passées à 2 jours, mais c'était toujours aussi, voire plus fort même.
D'accord.
J'ai pas eu
Ok.
d'hyperacousie. J'ai pas eu de
Ok.
migraine, en fait. Ce que j'ai eu, bah, fatigue, évidemment, hein, perte de poids et perte d'appétit. Mais sinon, j'ai pas eu tout ça. Et puis, bon, j'avais plus rien, j'ai plus de cheveux, hein. Pourtant,
Ouais. D'accord.
les infirmières de l'hôpital m'avaient posé un espèce de bonnet bleu congelé, en fait,
Ah, le truc froid,
ouais,
ouais.
qu'on met sur la tête. En fait, c'est censé diminuer la perte des cheveux. Alors, j'ai pas perdu totalement tous mes cheveux. J'en ai perdu, on va dire, 90%. C'est déjà énorme. Peut-être que c'est lié à ça, je ne sais pas.
Oui.
Mais après, j'ai essayé de le remettre
Mais de
la
toute façon,
seconde
comme tu dis, à
fois.
ce stade, la plupart des personnes, tu te rases les cheveux, même quand
Voilà.
t'as déjà
Ah,
perdu
bah, de toute façon, la deuxième fois,
plus de la
j'ai.
moitié, de toute façon, même que tu les perdes ou pas, tu les rases,
La
quoi.
deuxième fois, j'avais plus de cheveux. Hein. J'ai bien essayé de mettre, et puis comme j'avais pratiquement aucun cheveu, bah, c'était insupportable tellement c'était froid, donc j'ai dit stop.
Ouais, mais c'est pas la première personne qui enlève, parce qu'en fait c'est tellement plus désagréable. Je discutais avec une personne aussi qui a eu un cancer de sein il y a quelques années, et j'en discutais il y a quelques semaines, et qui me disait c'était pareil. Au final, en fait, elle m'a dit bah, j'avais perdu la moitié de mes cheveux, donc en fait j'ai préféré me raser. Et à la fin, elle me dit c'était tellement insupportable le
Ah
bonnet
non, non, c'est
que je l'ai
insupportable. Ah,
enlevé,
c'est
quoi.
insupportable.
C'était parce que de toute façon t'as rasé tes cheveux, donc au
Oui.
final c'était limite plus désagréable d'avoir ce truc, et elle
Ouais.
préférait perdre tous ses cheveux et mettre une perruque, quoi. Donc là, on parle de ta deuxième chimio. T'as eu combien de chimio au total?
Deux.
Enfin, combien de séances?
Deux
Deux.
séances.
Ok.
Deux séances qui étaient très fortes. En fait, ils auraient pu l'étaler
D'accord.
sur 4, 5, 6, mais beaucoup plus légère.
Ouais.
Mais si j'avais des comorbidités, style fumeur, etc.,
Ouais.
c'est comme ça. Là, non, en fait, comme je ne fume pas, comme j'étais quelqu'un qui avait une très bonne santé, mis à part cette tumeur, ils ont estimé que j'étais dans la capacité
Ouais.
d'encaisser, en fait, cette.
Ouais. Autant y aller à fond d'un coup.
Ouais.
Et ensuite, ça a été
C'est
quoi la
le
suite
cas de le dire, autant y
une
aller à
fois
fond, ouais.
que. Et ouais, ça a été quoi ouais, au niveau la suite de tes traitements. Donc là, ils t'ont opéré tout de suite après, ou t'as eu de la radiothérapie, ou.
Alors, non, la radiothérapie, ça s'est passé après. 2 semaines plus tard, j'ai passé un IRM à Antigny, à côté de Paris. J'étais parti voir un concert avec des copains, un concert de Muse, dont nous sommes allés 2 ans auparavant.
Oui, je rigole parce que c'est au concert de Muse où on s'est
C'est
rencontrés.
ça. Une petite bise à Kevin s'il écoute. Mais ouais, c'était horrible cette fois-là aussi parce que quand j'étais à Paris, j'ai refait un épanchement péricardique et pleural. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, j'ai mis 45 minutes pour faire 100 mètres, 150 mètres à peu près.
Ah ouais.
Ouais,
Ah
c'était ouais. horrible. En fait, j'ai vraiment fait une énorme connerie d'aller à ce concert parce que j'aurais
jamais. Ce que j'allais dire, est-ce que donc physiquement, t'étais dans quel état pour te dire ouais, je. Bon, après, je sais que tu es très 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 fan de Muse, mais puis je suppose que t'avais les places de concert bien avant.
Oui,
quoi,
ouais, je savais bien avant.
C'était déjà prévu, mais est-ce que ouais, du coup, physiquement, tu te sentais quand même capable à ce moment-là là. Alors, tu pouvais pas savoir hein, que ça allait physiquement, ça allait peut-être pas aller. Pendant, mais avant, est-ce que tu te sentais quand même capable d'y aller? T'étais quand même dans un bon état ou t'as forcé le truc quand même?
J'ai forcé le truc, c'est pas bien. En fait, pour être précis,
Ouais.
je devais absolument faire cet IRM à Paris. Donc
Ah, d'accord.
j'avais pris un covoit.
Donc, quitte à aller à Paris, autant tenter, quoi.
Voilà, c'était un peu ça. J'étais logé chez mon meilleur pote je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même aller au concert. J'ai pris un Uber parce que je suis pas allé, c'était de Gentilly jusqu'au Stade de France, faut quand même faire Gentilly le sud, Stade de France le nord de Paris. J'ai pris un
Ouais.
Uber, j'y suis allé, puis au retour c'est un copain qui m'a ramené, tu vois. Mais
Ouais, oui, t'as quand même prêté. Après, je peux comprendre, tu dis, bah, faut vivre aussi. Tu
c'est
dis, est-ce
ça.
que. Enfin, j'imagine, tu t'es dit, ouais, faut tenter aussi.
Oh bah mais quand même
Enfin,
mon
voilà.
médecin traitant, ma médecin traitant m'a dit que j'avais fait une énorme bêtise. C'était pas bien du tout en fait, parce que au-delà de ça, c'était quand même une période où il y avait encore le Covid qui traînait. Et qui, bon, il y avait
L'année dernière? L'été
Ouais,
dernier?
c'était un. Il est toujours plus ou moins là, tu vois, mais en fait,
Oui,
par sécurité, on va dire que si je l'avais eu, ça aurait pu être encore plus dangereux, en fait, pour moi.
C'est vrai que oui, tu vas vraiment dans la gueule du loup, tu
C'est
t'exposes
ça.
quand même à un endroit où,
Ouais, non, mais.
même pas forcément que Covid, tu peux choper plein de maladies, d'infections. Ouais,
Et puis
c'est
en vrai.
vrai que c'est un bon message aussi à faire passer, effectivement, tu es à un niveau où tu es très fragile au niveau de ta santé, au niveau de ton immunité, et c'est vrai que c'est ces moments-là où il faut aussi faire très attention au niveau de ton immunité, pour pas choper une moindre infection qui peut en fait appuyer. Mais en même temps, je peux comprendre, tu as envie de vivre, t'as pas non plus. Je pense que ça peut être aussi psychologiquement, ça peut être aussi agréable de se dire ouais, je peux enfin faire quelque chose de normal et pas juste mon quotidien ne se résume pas juste à traitement maladie quoi.
Mais tu vois, avec du recul, alors j'aurais pas fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai un peu joué avec ma vie à ce moment-là, parce que c'est pas par le fait d'attraper le Covid, parce que ça je ne savais pas, c'est juste que j'étais vraiment pas bien. Et plus tard, en fait, j'ai appris que
Ouais.
l'épanchement pleural et péricardique, c'était cette tumeur qui faisait ça. Et en fait, il y avait du liquide tumoral qui était autour de mes poumons et de mon cœur. Donc, c'est-à-dire que j'ai un peu joué avec ma santé. Deuxième, c'est
Ouais.
que j'ai quand même vu des amis qui m'ont vu dans un état pas ouf, dont une qui m'a pleuré dans les bras. Je t'avoue que j'étais pas hyper bien à ce moment-là. J'étais en mode putain, merde quoi. C'est pas, c'est, ça me faisait chier qu'elle pleure dans mes bras. Et la troisième raison,
Ouais.
le cancer. Tiens, c'est drôle ça. Le cancer était vraiment pas ouf. Donc, franchement, avec du recul, bon, je l'aurais pas
Oui,
refait.
t'as regretté, ouais.
Non, non,
Ouais.
mais.
Oui, bah bon, après, tu pouvais pas savoir. Je pense que ça, faut pas te jeter la pierre
Ouais,
non
non,
plus, mais
c'était
c'est
la
bien de faire
parenthèse.
un petit tap. Ouais, voilà. Non, mais je pense que c'est bien aussi de faire une petite prévention pour les personnes qui écoutent et qui voudraient, je sais pas, de dire oui, bon, au final, c'est pas les meilleures idées, mais je peux comprendre que tu veuilles, bah, continuer aussi à vivre, on va dire, pas normalement, mais d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce qu'à ce moment-là, tu continuais de travailler ou t'avais, arrêté totalement ton
Je
activité?
pouvais pas, c'était pas possible. Pendant la chimiothérapie, c'était
Ouais.
impossible. J'étais capable de rien. Entre 2 séances, j'ai assisté à un tournage. Parce que je suis dans l'audiovisuel, si je l'ai dit. J'ai assisté
Ouais.
à un tournage à un moment. Mais j'étais vraiment, c'était pas possible. Et puis de toute façon, l'ami avec qui je travaille, qui tient la boîte de production, m'a dit, non, non, Thibaut, je te fais pas
Ouais.
travailler. T'es malade. Fixe-toi sur ta santé et puis tu reviendras après quoi.
Et est-ce que, alors là, on sort un peu du sujet, mais je pense que ça peut intéresser, parce que vu que tu es dans l'audiovisuel, tu es dans le milieu un peu artistique, est-ce que tu avais un arrêt maladie ou au niveau financièrement, est-ce que tu étais protégé ou au contraire, c'était plus compliqué
Alors,
qu'une personne qui aurait été dans une boîte privée ou publique, lambda?
pour le coup, comme je venais juste de me mettre en tant qu'auto-entrepreneur, c'était un peu plus compliqué.
Ah oui.
Bah non. Donc après, bon, j'ai eu des aides, bah, des aides de l'État en fait à ce moment-là en fait hein, pour
D'accord.
survivre. J'aurais pu demander une allocation. La AAH, je crois, aide allocation handicapée, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, on m'a pas dit que je pouvais le faire. Donc, j'ai pas vraiment réfléchi. Donc, bah, je suis contenté du peu que j'avais à ce moment-là, des
D'accord.
économies, etc., etc. Voilà, simplement.
OK. Mais il existe des aides à chercher, mais il peut
Ouais,
y avoir quand même.
oui, il y en a.
Ouais.
Alors, j'ai pas
Ah,
vraiment
mais tu vois,
cherché
je
à ce
trouve que c'est
moment-là.
dommage qu'on te l'ait pas dit.
C'est
Enfin,
vrai.
ouais, voilà. Oui, mais parce que tu n'y penses pas.
J'ai
Mais tu vois,
pas
je
du
trouve
tout.
ça un peu important. Je pense que c'est important, tu vois, si jamais on nous écoute et que c'est un peu un message aussi à faire passer, de regarder qu'il existe. Alors, je dis ça parce que je sais que moi aussi, mon père a eu des aides et qu'il existe des aides. Alors, ça dépend, je pense, en fonction de la situation de la personne. Mais voilà. C'est vrai que je dis ça parce que, comme tu dis, on n'y pense pas. Moi, pour mon père, bah, c'est ma mère qui s'en était occupée, mais je ne pense pas que mon père se serait dit, tiens, je vais aller regarder financièrement à quoi j'ai le droit. Alors que non, pendant que t'es malade et t'es sur ta chimio et t'es à penser à tout ça, quoi.
Quand on n'est pas
Mais.
quand on est à son compte, c'est plus compliqué. Mais quand on travaille pour une boîte ou un magasin ou service public ou choses comme ça, évidemment, qu'il y a des aides. Heureusement, sinon ça serait, t'imagines, ça serait pas possible, quoi.
Ouais, mais tu vois, d'avoir les infos, de
Ouais, c'est
savoir
vrai qu'il
qu'il y
faut.
a des aides, mais qu'on le
Mais
sache, c'est
oui. Ah
pas.
non,
Faut le
faut le
savoir, quoi. Donc,
savoir.
c'est pour ça que je me dis, c'est bien aussi de le dire. Je sais pas après quel type d'aide et tout, je saurais pas renseigner, mais en tout cas, il faut savoir qu'il existe des choses. Et je pense pas qu'on soit vraiment bien renseigné aussi là-dessus. Enfin bon, c'était une petite aparté. Et du coup, ouais, donc au niveau de ton traitement, donc là tu as fait, donc tu étais à Paris, tu as fait ton IRM.
Ouais.
Et ensuite, quelle a été la suite?
Donc j'ai rendez-vous à Tours une petite semaine plus tard. Même pas. En fait, on m'envoie un courrier pour me dire que je dois faire une prise de sang. En fait, je dois faire des examens. Et j'ai rendez-vous à Tours. Les médecins me disent que je vais être opéré le 18 juillet. En fait, je vais subir une
Ok.
thymectomie, c'est-à-dire en fait, ils vont m'enlever le thymus qui s'est en fait par procédé, c'est-à-dire d'une sternotomie, c'est-à-dire qu'en fait, ils ouvrent
D'accord.
sur une surface de 17 cm le sternum, en fait, bah, la cage thoracique. C'est super, franchement, c'est digne d'un film de je n'ai pas de
C'est.
réalisateur de films d'horreur, c'est une honte. Bref, peu importe.
J'en ai pas non plus,
Et
j'en regarde pas. Mais oui, c'est un peu,
James Wan,
effectivement,
c'est
quand
bon,
on
je l'ai.
regarde le principe de l'opération.
Ouais, non, voilà, c'est en fait c'est en gros bah c'est comme une opération cardiaque sauf qu'ils m'ont enlevé le thymus et ils ont fait ça très bien pour le coup parce que moi j'avais une peur, j'avais alors c'est une peur qui est tellement superficielle, c'était la gueule de la cicatrice.
Bah, oui et non, mais bon, je comprends, enfin, puis en plus, t'es encore jeune, donc, enfin, jeune ou pas, mais bon, je peux comprendre, oui, on t'ouvre quand même au niveau de la cage thoracique, donc c'est une cicatrice visible, donc
Bah,
je peux comprendre que,
c'est
parce
simple,
qu'après,
hein.
derrière, ça veut dire que tu t'es fait opérer là, puis c'est un truc que tu gardes à vie.
Y a une technique, hein, pour voir, en fait, il suffit juste de toucher son sternum. Et en haut du sternum, si on met le doigt, il y a un petit trou. Et en bas du sternum, il y a un petit trou aussi, en fait. Il y a des petits creux. Et c'est de là, en fait, la cicatrice. Voilà, tout simplement.
D'accord. Ouais, donc ils ont quand même fait un truc propre en fait. T'as pas une grosse cicatrice.
Alors, elle est fine, mais c'est quand même. C'est une cicatrice qui est assez fine. Mais ça mesure quand même
D'accord.
près de 17 cm. Donc ça reste quand
Ah
même
oui, ah oui,
assez,
d'accord. Ah
assez
oui, je
long.
voyais ça beaucoup. Ouais.
Et avant l'opération, m'ont quand même prévenu qu'il y avait bah, plusieurs risques. Il y avait, on va dire, d'un moins important au plus important. Le premier risque, c'était de m'enlever des morceaux de poumon. Alors, ce qui s'est passé, ils m'ont enlevé des petits morceaux de poumon, mais quand c'est le poumon se régénérerait, c'est ce qu'on m'a dit, quand c'est des tout petits morceaux, on va dire que ça se régénère.
Ouais, quand ils en enlèvent vraiment pas beaucoup, ça peut se reproduire un petit peu. Après, même si ça se régénérerait pas, vu que tu es jeune et que tes poumons, je suppose, sont en bonne santé, ça va. Enfin, vaut mieux ça qu'effectivement l'inverse. Et je crois, enfin, si je dis pas de bêtises, mais effectivement, des fois, ils vont gratter un peu plus pour être sûr, parce que même si tu enlèves la tumeur, les petites cellules peuvent commencer à se propager et des fois, ils vont gratter autour aussi pour être sûr d'enlever toutes les cellules qui commenceraient à se propager, parce que t'imagines, bah, qu'il y a une cellule qui se loge dans le poumon et qu'ils n'y auraient pas gratté. Et ok, ils t'ont enlevé la tumeur, mais du coup, les cellules vont aller infecter le poumon et aller se propager dans le poumon. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'ils grattent toujours un peu plus pour être sûr, enfin quand ils peuvent, pour être sûr qu'ils aient bien enlevé toutes les cellules cancéreuses.
Là, c'est exactement ce qu'ils ont fait.
Donc c'est bien, voilà, quand ils peuvent, franchement, c'est bien, c'est pour ça qu'ils le font. Et effectivement, d'accord, donc là, avant qu'on passe à la suite, je me suis demandé comment tu t'es sentie quand on t'a dit que tu allais te faire opérer et retirer. Est-ce que tu as été soulagée ou tu avais une peur de l'opération quand même? Tu étais dans quelle étape psychologiquement?
Alors, c'est très curieux, c'est que juste avant, j'avais peur. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Ok.
Et quand ils m'ont dit, on va vous opérer... Et c'est toujours actuel, c'est très bizarre, c'est qu'il y a eu comme un interrupteur, c'est-à-dire que je n'ai plus peur de la mort. Parce que j'ai dit, imaginons que ça se passe mal et que je meurs, et ben je me suis dit, bah tant pis, je veux dire, c'est comme ça. En fait, c'est un peu fataliste, hein, mais je n'ai plus peur de ça.
Non, c'était, mais je pense comme ce que je racontais au début, de dire, bah, tu t'es battu jusqu'au bout et que si jamais tu décédais à ce moment de l'opération, tu peux plus rien y faire et que tu as été jusqu'au bout de ce que tu pouvais te battre. Je pense que justement,
c'est possible.
Peut-être que ça rapproche à ce moment-là, tu vois, de se dire, de toute façon, bah, je me suis battu jusqu'au bout, que tu vives ou que tu meurs, bah, tu t'es battu jusqu'au bout et tu as tout donné et que tu n'as pas eu de regrets et peut-être pour ça que tu n'avais pas de peur.
C'est possible, j'avoue que.
Donc,
Y a de ça aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours actuel. On va dire qu'actuellement, avant j'avais peur de ça. Là, j'ai plus du tout peur de la mort. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai envie de mourir, évidemment. J'ai pas envie de mourir, mais
t'as plus cette peur, quoi, qui te. Ouais.
Ouais.
D'accord. Ah, c'est intéressant. Enfin, je sais pas trop comment le formuler, mais ouais.
Oui, mais juste que tu veux
dire. C'est intéressant comme de voir que ouais, ta vision aussi de la vie change. Et d'appréhender la vie, en tout cas, change, je suppose.
Et donc, pour le coup, il y avait le risque, je reviens sur ce que je te disais, les petits morceaux de poumons qui m'ont enlevé. Et un autre risque qui était quand même assez important, c'est que comme la tumeur passait faisait de droite à gauche, on va dire qu'elle allait vers la gauche. Et sur la gauche, il y a quand même un nerf qui s'appelle le nerf phrénique, qui permet en fait la mobilité du diaphragme.
Qui est un nerf principal.
Voilà. Et les médecins m'ont dit qu'il y avait 80% de chance, à peu près, enfin, peut-être pas 80, mais 70% de chance que on me sacrifie ce nerf-là. Ce qui aurait été...
Ah oui. D'accord.
Très problématique, c'est-à-dire que handicap à vie, quoi. En fait, ils m'ont dit qu'il y avait des possibilités de faire des choses après, mais que c'était des opérations, etc. Et voilà. Donc, pour le coup, il y a eu cette possibilité-là. Et l'autre possibilité qui était un peu plus embêtante, c'est qu'ils m'ouvrent, qu'il regarde où en est la tumeur, parce qu'en fait avec l'IRM on voit comment c'est, mais on n'a pas tous les éléments. Et si la tumeur était accrochée sur des artères, sur des choses comme ça, et ben là il devait refermer et puis enchaîner un corps de la chimio ou de la radiothérapie, choses comme ça.
D'accord.
Donc pour le coup, ils m'ont pas sectionné le nerf phrénique, tant mieux, et ils m'ont enlevé ce thymus.
Ouais.
Donc voilà. Ça c'est l'opération s'est très très bien passée, vraiment très bien passée.
Ok. Et donc ensuite la suite, déjà de te remettre de ton opération, ça a été long ou ça a été comment ça s'est passé?
On va dire que c'était. Non, c'était mieux parce que déjà j'ai un poids moins. De se dire, bon, ils ont enlevé. Voilà. Ils sont enlevés le plus gros parce que j'ai eu un autre rendez-vous 2 semaines plus tard pour voir comment était la cicatrice. Même les médecins ont dit que je cicatrisais très bien. Ils avaient rarement vu ça. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et puis, bah, ils m'ont même montré une photo bah, du thymus. Quand on voit, on dirait un steak, c'est horrible, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas un truc à voir. Non, non, le médecin qui était incroyable. En fait, j'ai été soigné par un professeur. Le mec, il a 38 ans, c'est incroyable, quoi. Un professeur 38 ans
Ah
de.
oui,
Ah ouais,
il est
ouais.
jeune.
Ah ouais,
Ouais.
c'est incroyable. Et moi, je pense que j'ai été soigné par le meilleur chirurgien, professeur thoracique, tout ce qui est thoracique de la région centre, hein, ça, j'en suis pratiquement sûr. Parce que l'hôpital, j'ai été soigné à Bretonneau et à Trousseau. Et c'était l'hôpital de Trousseau
D'accord.
où j'ai été soigné. Et je pense sincèrement que ce médecin-là
Ok.
fait partie des meilleurs, voire des meilleurs de France, quoi. Donc,
Ouais.
je le salue. S'il
Non,
écoute, on sait jamais.
bah c'est bien, ouais, que tu te sentes. C'est toujours important aussi de remercier
Ouais.
les médecins qui t'y font. Je pense que
Ah non, mais
c'est
c'était une
de
équipe,
plus en plus
mais
rare de nos jours.
incroyable. Hein. Vraiment, j'ai rien à dire. Donc ouais,
Ouais.
c'était un peu. En fait, c'était compliqué parce que bah j'avais plus du tout de force dans les bras. J'ai eu de la kiné pendant 2 mois. Non, 3 mois. 3 mois. Donc pendant 3 mois, j'ai dû faire des exercices. Moi qui m'étais mis au sport 2 ans auparavant, bah quand on commence à faire des exercices de musculation,
Ouais.
que être fait soulever un truc et que la barre est à vide et que tu penses qu'il y a 30 kilos et ça met un petit coup dans la gueule, tu fais ah merde, quoi, qu'est-ce
Ouais.
qui se passe, quoi. Mais oui, ça
Ouais,
joue un
t'as
petit
perdu
coup
toute
sur
ta
le.
masse musculaire que tu avais travaillée jusque-là, ouais, ça.
Ouais, ça joue un coup sur le moral. Mais en soi, c'était aussi pour la bonne cause. Donc j'ai eu le temps de bah, cette cicatrice qui était encore présente quand même. Donc c'était un petit complexe à accepter pendant quelques temps. Là c'est bon, je l'ai accepté. En soi c'est bon, c'est accepté. Et puis ça fait partie de moi, hein, c'est ce que je me dis. C'est plus celles sur le côté qui sont un peu plus difficiles à accepter parce que ça fait beaucoup, je trouve. J'en ai une sur le côté gauche, deux sur le côté droit, une au milieu. Ça fait un peu beaucoup. Mais bon,
Ouais.
ça va, ça pourrait être pire.
Ouais, c'est. Mais c'est aussi une grande force hein, de le prendre de ce côté, d'un point de vue positif, quoi, justement, de dire ouais, ça pourrait être pire, ça va. C'est une force hein, de dire ça. Mais bon, t'as le droit aussi de dire ouais, ça, c'est dur à vivre au quotidien d'avoir ces cicatrices-là. Ça doit pas être facile non plus.
Mais tu sais, cette force, au départ, au début, je pensais pas l'avoir, hein, vraiment. Hein, et en fait, c'est quelque chose que j'avais et ce qui m'a surpris, quoi. Je me suis dit, ok, bon, bah, c'est cool, j'ai ça,
Ok.
c'est bien, cette capacité
Ouais,
à
t'as appris
combattre.
sur toi-même, quoi.
Ouais, totalement.
Et comment, ouais, psychologiquement, là, à ce moment-là, après l'opération, donc avant, tu disais que t'avais peur, avant de te dire qu'on va t'opérer, là, une fois qu'on t'a opéré et qu'on t'a dit que l'opération s'était bien passée, est-ce que t'as eu un soulagement ou t'avais un peu peur aussi de l'inconnu, de quelle va être la suite?
Je n'ai pas eu peur. Ouais, c'était plus l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ils m'ont dit ce qui allait se
Ouais.
passer. Mais en fait, il y a eu. En fait, c'est simple. La seule fois, les 2 seules fois où j'ai eu peur, c'est simple. C'est ces 2 semaines où je ne savais pas ce que j'avais. Et c'était le jour où on m'a annoncé mon cancer. Je suis rentré chez mes parents et je suis tonton. J'étais tonton depuis peu en fait. J'ai mon neveu qui est né le
Ok.
27 février 2023 et ma sœur
Ah oui, t'es
me
tout
le
jeune,
tend
ouais.
dans mes ma sœur me le donne dans les bras, tu vois. Et là, je me suis effondré parce que je me suis dit merde, ça se trouve je vais pas le voir grandir, tu vois. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est
Ouais.
à ce moment-là. Et ça a duré quelques temps, parce que c'était compliqué, en fait, à avaler aussi, de se dire, merde, j'ai quand même ça. Mais je me suis vite repris après, je dis, bon, allez, faut reprendre le truc. Mais c'était ces deux moments-là où c'était compliqué. Et sinon, après, non, j'ai pas eu peur après, vraiment pas. J'étais tellement confiant,
Ok.
en fait, en les médecins que non, non, aucune peur.
Ah, c'est bien, ouais. Donc là, t'étais. Donc c'était quoi? T'étais quand même soulagé une
Ouais.
fois
Ah bah
qu'on
oui.
t'a annoncé ouais, que l'opération s'était bien passée.
Largement, largement, largement. Et c'est là où ils m'ont annoncé aussi que bah, j'allais faire de la radiothérapie.
Ok. C'était de la prévention, là, du coup, pour le coup. C'était plus pour être sûr d'éliminer toutes les cellules.
Alors, ils ont dit de la radiothérapie. J'ai plus le terme, mais ouais, c'est une sorte de prévention.
Ouais.
Mais ça a duré 5 semaines. C'était du 29 septembre au 3
Ok.
novembre, je m'en
Ah ouais,
souviens.
quand même, ouais.
Ouais.
D'accord. Ouais, mais il me semble que c'est ça, c'est des opérations qui font, enfin des radiothérapies qui font pour bah, rééliminer, enfin si je dis pas de bêtises, hein, mais pour éliminer vraiment les dernières cellules
C'est
qui
ça.
resteraient cancéreuses, pour être sûr de tout éliminer et qu'ils auraient raté. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile aussi physiquement. Comment ça s'est passé? Ouais. Physiquement, toi, pendant ces 5 semaines, parce que c'est aussi long, quoi, 5 semaines.
C'était très fatigant parce qu'en fait, à Châteauroux, il n'y a pas de centre de radiothérapie. En fait, il y en a un qui est en construction. Il y en avait un qui a fermé dans les années 90, mais il y en a un qui est en construction. Donc c'était à Bourges. C'est-à-dire que je faisais Châteauroux-Bourges tous les matins, parce que je ne voulais pas que ce soit en milieu d'après-midi. Tous les matins, je me levais à 6h pour voir une séance de radiothérapie à 7h30, 8h, quoi. Pour une séance qui dure 10 minutes à peine. C'est simple, alors en fait, vous rentrez dans une pièce, vous êtes torse nu, on vous met couche, les bras en l'air, il y a une machine qui tourne autour de nous, qui fait un bruit d'extraterrestre, très bizarre. Et puis, on repart. Et quand la machine fonctionne, parce que ça m'est arrivé deux fois, la dernière fois, je me souviens, j'ai même failli ne pas y aller. Parce que ça m'a saoulé, elle fonctionnait pas, et j'ai dit, vas-y, je la fais pas, j'y retourne pas. Mais je me suis dit, non, 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 je le fais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. C'est vraiment hyper rapide, hein, c'est des ondes. Aucun symptôme. Si, alors, j'ai quand même été voir
Ok,
une énergéticienne avant. Alors ça, on n'y croit pas.
d'accord.
Moi, ça a fait effet sur moi.
Ouais, mais bon, je pense que ça. Ouais, ça coûte rien. De toute façon, ça va pas te faire de mal, donc.
Non, 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 ça m'a, ça, j'ai eu aucun symptôme à part bah, la perte des poils sur la zone visée, c'est-à-dire bah, le sternum, les poils qui sont tombés,
Ouais.
qui ont repoussé. Donc il y a eu ça. Mais c'est ce qui était fatigant, c'était le trajet, quoi. Le trajet aller-retour, j'avais ouais, je revenais, il était 10h30, 11h parfois, parce que des fois j'avais des séances à 9h,
C'est
donc.
combien de fois par semaine, ça?
C'était 5 fois. C'était lundi, mardi, mercredi, jeudi,
Ah oui.
vendredi. J'ai eu,
Ah ouais, quand même, donc c'était
je crois que j'ai eu 28 séances, un truc comme ça, ou 25 séances, un truc, je sais plus combien.
Ah ouais, que. Ouais, quand même, hein,
Ouais.
t'en as quand même eu pas mal,
Ouais, c'était,
hein. Ok. Et donc là, à ce moment-là, pareil, je reviens toujours sur aussi le côté psychologique, hein, parce que je pense que c'est aussi intéressant de voir ton processus psychologique tout au long de ce parcours-là, parce que souvent on parle des symptômes, de l'effet physique, mais c'est aussi intéressant de voir comment toi t'étais dans quelle optique pendant ces radios-là. Donc, je suppose que t'étais très fatigué, mais est-ce que t'étais toujours en positif à dire bon, je vais me battre de tout ça, ou là tu commençais à dire bon, j'en peux plus, ça fait plusieurs mois que je me bats contre ça. Enfin voilà, comment tu te retrouvais, où est-ce que t'en étais?
Alors en soi, en fait, c'était coupé par quand même des moments de pause. Tu vois, j'ai eu hôpital, pause, chimiothérapie, pause, opération, pause, longue pause, parce que c'était quand même l'opération, je t'ai dit, hein, c'était le 18 juillet, la radiothérapie, c'était le 29 septembre. Donc j'ai eu 2 mois de longue pause
Oui.
pour me reprendre. Donc ça allait. C'était juste que moi, le truc qui ça me saoulait, c'était le trajet, quoi. C'était dans ma ville, j'aurais dit, bon, ok, vas-y, il n'y a pas de problème, je le fais. Mais c'était juste le temps.
Ouais, ça doit se réduire.
Psychologiquement, en fait, à ce moment-là, c'est ça qui est fou. C'est que mon cerveau s'est mis en mode survie, tout simplement. Il s'est mis en mode survie. C'est, tu réfléchis pas, tu fonces, point barre. Tu réfléchis pas, parce que, stop, t'as trop réfléchi maintenant. Allez, tu fonces, ça sert à rien.
Ouais.
Fais confiance, voilà. Et puis je me suis dit, ok. Ok. Et non, non, ça, c'était juste pénible, en fait. C'était vraiment juste ce temps. Et puis bon, je dormais pas hyper bien quand même. Mais
Ouais.
c'est. En vrai, ça allait. Ça allait. Mais tu vois, je peux même te dire un
OK.
truc, c'est que quand j'ai fait mon deuxième mon rendez-vous post radiothérapie, je suis retourné à l'hôpital et ils m'ont annoncé un truc qui m'a choqué, c'est que ce cancer, moi je pensais l'avoir depuis, je me suis dit allez fin d'année 2022. Ils m'ont dit, ah non, monsieur
Ouais.
Frandon, monsieur Frandon, c'est pas du tout depuis ça, ou depuis l'année dernière que vous l'avez. Ça fait au moins 5 ans que vous avez ça. Et
Ah ouais.
je me suis dit, pardon, comment ça, c'est.
Ouais.
Il me dit, justement, ça fait 5 ans. Vous étiez au stade 2, voilà, stade 2 de cette
D'accord.
maladie. Et vous avez eu quand même beaucoup de chance d'être tombé sur des bons médecins. Parce que Tours, bah, ils étaient vraiment très très bons. Ouais, non, non,
Ouais,
je m'en rends compte.
c'est. Bah, pour déjà, comme tu disais, elle faisait déjà 8 cm. Donc, et puis de toute façon, pour avoir les premiers symptômes, c'est que déjà, oui, parfois la tubeur, faut qu'elle déjà elle grossisse
12.
suffisamment pour avoir les premiers symptômes. Oui, 12
12,
cm en plus,
cm.
pardon,
En
excuse-moi.
fait, elle a fait 8 cm. Elle a fait 8 cm après la chimiothérapie. La chimiothérapie
Ok.
l'a réduit, mais vraiment, bah, en même temps,
Il a réduit un peu, ouais.
ce qu'ils lui ont mis dedans, c'est clair
Ouais.
que ça a fait en sorte que ça a bien fonctionné, hein, ça a hyper bien fonctionné, hein, c'est incroyable. Hein. Ah bah, ça l'a dégommé. Hein. Et donc, ouais, non,
Mais
c'était
c'est vrai
dur.
que ça doit être dur de se dire, waouh, en fait, j'avais
Ouais.
un cancer depuis déjà 5 ans, quoi. C'est vrai que, ouais, ça doit
J'ai
être.
pas tout de suite. J'ai pas tout de suite. Réalisé. Et c'est là où le physique et le psychologique jouent un rôle. C'est que moi, je suis convaincu d'une chose, que les problèmes psychologiques peuvent amener à des problèmes physiques. Il y a 6-7 ans, un peu plus longtemps, j'ai eu un choc émotionnel très fort, très très fort. Et je pense que ça a peut-être été le début de ça. Je ne suis pas sûr
Ok.
à 100%, mais
Oui, mais tu.
j'ai
Ouais.
vraiment de très très gros doutes. J'ai eu un choc émotionnel qui a duré assez longtemps.
Ok.
Et je pense que ça a peut-être déclenché ça. C'est comme ça, après, voilà. C'est pour ça que il faut pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, la psychologie. Non, non, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de
Ah
santé
oui, mais je
mentale.
pense que de plus en plus. Ouais, c'est ça. Je pense que maintenant, la parole est quand même assez ouverte par rapport, il y a même, comme tu dis, déjà 5-6 ans. Ça a été aussi bien montré que la santé mentale est impactée aussi avec le physique. Enfin, c'était quand même très, très lié. Donc, mais c'est bien d'en parler, justement, de le dire, quoi.
Et ça
Et d'où l'importance de prendre soin de ça, de prendre soin de soi.
a amené, quand bah, la radiothérapie s'est terminée, décembre s'est passé, j'ai fait un petit voyage avec ma meilleure pote, on est parti et tout. Je suis revenu, on fait le nouvel an, et premier de l'an, ça c'est fou, hein. Syndrome stress post-traumatique. Qui se déclare le premier de l'an. Ça a vrillé dans ma tête. On va dire que j'ai paniqué.
Ok,
Et
c'est le
depuis,
fait de passer une nouvelle année, là, tu t'es rendu compte.
je ne sais pas, sans doute peut-être, mais
Ouais.
en fait, j'ai réalisé ce par quoi j'étais passé. Mon corps était guéri. Maintenant, c'était la psychologie qui prenait, en fait, qui prenait le devant. Et bah, depuis, stress post-traumatique. Donc pendant un
Ouais.
mois,
Bah...
vas-y, vas-y, excuse.
Ouais. Non, j'allais dire, enfin, justement, j'allais t'en parler, parce qu'on en avait parlé aussi de ça, c'était... mais justement, ça revient un peu de ce qu'on disait au début, de bah, ton cerveau fait un peu l'omniscient et dans le déni le temps pour te protéger, pour pouvoir vaincre tout ça. Et tu vois, une fois que tout est terminé et que ça y est, tu sais que là, ça va mieux et que ça va être que positif, hop, là, c'est bon, ton cerveau, comme s'il se... cherche, trouve pas en français, là, il se unlock, pour dire, ça y est, maintenant, tu t'en rends compte, quoi.
Verrouiller, déverrouiller peut-être, non?
Voilà, le déverrouiller.
Ouais.
Merci. Il se déverrouille pour dire ça y est quoi. C'est là, il y a plus besoin de te protéger, on va dire, parce que ça y est, tu as passé le cap Et là, tu te rends compte, t'es plus dans le déni, enfin, en tout cas, t'es plus dans une phase floue de protection par ton cerveau, quoi. Qui est très mal dit, mais je pense qu'un psychologue, un psychologue le dirait beaucoup mieux que moi. Mais je vois.
Mais c'est.
Et du coup, oui. Donc, vas-y.
C'est incroyable parce que. Depuis, je suis suivi par. Moi, j'étais déjà suivi, je faisais un suivi psychologique parce que pour moi, je pense que c'est hyper important et que tout le monde, bon, pas tout le monde, mais beaucoup de gens devraient aller voir un psychologue ou psychothérapeute. Ça fait énormément de bien. Ouais. Vraiment, ça fait énormément de bien. Je voyais déjà une psychologue. Et là, je vois une autre psy par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est fou parce que le corps humain et le cerveau, c'est vraiment un truc. C'est transcendant, je trouve, parce que il y a ce côté, t'es guéri. Bon, mon médecin me disait que même, bon, des fois, tu peux avoir ce stress post-traumatique pendant la maladie, mais généralement, c'est souvent après. Okay. T'es guéri.
Ouais.
Ok, c'est bon. Maintenant, tu vas comprendre ce qui t'est arrivé. Il va falloir du temps. Et j'ai dit, tout le mois de janvier, pratiquement tout le mois de janvier, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mis du temps et j'ai compris ce qui m'arrivait psychologiquement. Pourquoi j'ai ça? Maintenant, je le comprends. J'ai avalé le truc, tu vois.
Ouais.
Mais c'est vrai que, depuis, je dors pas hyper bien, des cauchemars, je rêve qu'on me tue dans des façons, mais horribles, tu vois. Des fois, je fais, waouh, c'est fou, quoi. Mais bon, ça commence à aller un peu mieux, déjà. Mais ça met du temps.
Je suis contente de l'entendre, parce que oui, on en serait quand tu m'en avais parlé, enfin on avait parlé de cette phase-là il y a un ou deux mois, donc ouais, t'étais peut-être en plein dedans. Donc déjà, c'est bien de savoir que ça va un peu mieux.
Ouais, ouais.
Et je pense que c'est aussi important d'en parler, de montrer que ouais, une fois qu'on te dit que ça y est, t'es guéri, on va dire, enfin en tout cas, tu es en rémission, parce que je crois que le mot guéri n'est jamais vraiment employé, on emploie surtout le mot rémission, qu'en fait c'est pas terminé, quoi. C'est là où justement tu te rends compte et que tu vois, tu comme d'en parler, de montrer que tout n'est pas fini, quoi. Maintenant, tu dois te battre plus physiquement, mais psychologiquement contre ces démons-là, quoi. Donc, ce qui n'est pas forcément facile non plus.
Non, et ça peut être plus long des fois même.
Ouais. Et donc là, à quel moment justement ils t'ont annoncé que tu étais en rémission ? Est-ce que je suppose que tu as fait des examens pour confirmer que ça y est, c'était officiel. Qu'est-ce que tu as fait déjà comme examen et quand est-ce qu'ils te l'ont annoncé ?
Alors, j'ai eu rendez-vous le 28 février dernier.
Ok. Donc là, on est mi-fin mars.
On est fin mars.
Que les gens savent à peu près, voilà.
Bah, on est le 23 mars, c'est le 28 février dernier. Rendez-vous à Tours. J'avais fait un IRM et tout. Et aucune trace sur l'IRM. C'est là où ils m'ont annoncé que je serais surveillé deux fois par an, c'est-à-dire deux IRM par an. Pendant 5 ans, et après, ça sera un IRM par an pendant 10 ans, donc pendant 15 ans. Jusqu'à, mais ouais, je suis nul en maths, donc on va dire à peu près 40 ans, 45 ans. Quoi.
Ouais.
Donc ouais, jusqu'à cette période-là, je suis vraiment surveillé. Et bon, ça me rassure.
Okay.
Ça me rassure, parce que les gens disent, oui. Oh là là, c'est dur pour toi d'aller à l'hôpital toucher. Non, 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 au contraire. Au contraire.
Ouais, c'est compréhensible parce que c'est vrai qu'au moins tu dis, ouais, au moins on check si c'est parvenu, au moins on check si tout va bien, quoi. Et effectivement, donc là, en dehors de. Donc maintenant, on t'a annoncé que tu étais en rémission. Déjà, est-ce que le sentiment que tu as eu, c'était un soulagement ou au contraire, tu étais un peu. Parce qu'en plus, tu étais dans une phase un peu de stress post-traumatique. Est-ce que tu étais absent? Enfin, quelle émotion t'as eu quand on te l'a dit officiellement?
Eh bien, c'est simple. Le matin, je rêvais que je traversais une tempête au réveil. C'est fou, je trouve, même.
Ok.
Et c'est beau ce que je vais dire. Oh, je suis un poète. Et ben, la tempête était traversée. Voilà. Donc.
Ok. C'est ouais. Voilà. C'est beau. Non, non. Donc, c'est une belle image.
Donc ouais. Non, non. On va dire que oui, il y a eu un soulagement. Soulagement pour moi, pour ma famille, pour mes amis, même si. La plupart ne m'en parlent pas parce que je pense qu'ils pensent que c'est quelque chose qui peut m'affecter, mais pas tant que ça. Même j'en rigole, en vrai. Même, de toute façon, même quand j'étais malade, j'en rigolais. Pour te dire, j'ai un de mes meilleurs potes, François Sau, s'il écoute ce podcast. On avait fait un barbecue chez moi et il s'était ramené, il m'avait offert un astro cancer. tu vois, c'est
Ah oui.
les trucs à gratter là.
Oui.
Voilà, moi c'est le genre de
Ouais.
truc qui me fait rire, mais je dis, mais voilà, mais moi c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas
Ouais.
qu'on me prenne par pitié. Et personne. Je crois aussi,
Ouais.
j'ai eu deux, trois personnes qui ne m'ont plus parlé du jour au lendemain, mais c'est pas grave, ça, tant pis pour eux. Mais la plupart,
Je pense que ouais, c'est chacun réagit aussi d'une manière différente, quoi.
Ouais, voilà. Ça, après, c'est pas grave, hein. C'est pas ce qui m'a empêché de combattre le truc. Mais vraiment, j'ai été hyper bien entouré. Et ça, je pense que c'était important aussi. Ça a été compliqué, du coup,
Oui,
d'un point de vue
ouais.
famille, parce que, ma sœur qui venait d'avoir un enfant, donc c'est sûr, c'est compliqué. Ma mère qui est une femme hypocondriaque, qui elle,
Ouais,
avait
puis
toujours peur
si
d'être
on parle
malade
de son
aussi, quoi.
enfant, parce que voilà,
Voilà.
ben oui, puis on parle de son. Parce que moi, je dis, là, on parlait, moi, je disais, c'était mon père,
Voilà.
mais c'est un parent. Alors, je pense
C'est
que c'est
apparent.
vraiment différent quand c'est un enfant.
Ah
Ouais,
bah, c'est
c'est.
terrible, terrible.
Ça doit pas être facile à vivre, tu vois, c'est. Ouais.
Moi, je peux pas comprendre pas ça, mais je pense qu'on comprendra ça le jour où on aura des enfants.
C'est ça.
C'est
Enfin,
ça.
je me dis, ça doit être bien plus difficile de. On va dire, tu sais, on parle souvent dans l'ordre des choses.
C'est ça, mais c'est clair.
Ben, l'enfant, ouais, c'est souvent le. On accompagne ses parents dans la
C'est l'ordre
maladie, et ça,
naturel
c'est
des
aussi
choses.
accompagner son enfant dans la maladie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça doit pas être facile aussi non plus à vivre ces moments-là. Hein. Et donc, pour. Et là, ton quotidien actuellement, est-ce que ça y est, tu es. Parce que tu parlais, bon, t'avais pas pu travailler au début, qu'avec les traitements, ça, c'était impossible. Est-ce que là, ça y est, physiquement, tu es apte à travailler, t'as repris ton train de vie d'avant, ou c'est encore des fois physiquement difficile?
Alors, physiquement, je dis pas que je suis au climax de ma forme, évidemment que non. Mais oui, j'ai repris, je reprends petit à petit le boulot. Là,
Ok.
je me suis mis dans ma formation de monteur vidéo que j'avais arrêté parce que j'avais absolument aucune envie de le faire, parce que j'étais pas du tout à ça. Là, comme j'ai dit, que je vais me mettre aussi à une formation de télépilote de drone. Tu vois, je
Ouais.
vais commencer à mettre plus de choses. Donc, tu vois, j'ai déménagé. Là, je suis en coloc chez mon meilleur pote. Ça se passe super bien.
Ok.
Donc, voilà, non, il y a des choses qui
Ah, c'est
changent.
bien, ouais.
Ouais, non, non,
La vie a
j'ai...
repris quoi. La vie, des projets ont
Et
repris.
puis même, psychologiquement parlant, je relativise énormément par rapport à avant. Avant, il y avait des choses... Je me disais, ouais, ça peut être un drame ce qui m'arrive. Bon, j'exagère un petit peu, je suis pas une drama queen non plus, mais
Ouais.
il pouvait m'arriver un truc, je pouvais être
Je vois
saoulé.
ce que tu veux
Maintenant,
dire.
c'est terrible. J'en parlais avec la psy qui me suit. Je disais, des fois, c'est vraiment horrible hein, ce que je vais dire. Hein. Je suis désolé pour ceux qui m'ont écouté, mais je me dis, quand
Non,
quelque
mais
chose,
c'est ton ressenti aussi.
quand quelque chose va pas et que je me dis, bon, allez, c'est bon, il y a pire, j'ai traversé un cancer.
Oui.
Et je me dis ça. Et là, d'un
Mais
seul coup, je
c'est pas
relativise.
horrible parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses aussi. Enfin, moi, je me dis toujours, il y a pire dans la vie. Enfin, ça dépend. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose, j'en parlais avec ma chef. Donc là, on parlait que j'avais fait un épisode sur la fausse couche pour expliquer ce que c'était, parce que j'en ai fait une en novembre. Et
L'épisode
en
était
fait,
très
au
bien.
travail, après, j'en ai parlé. Merci, c'est gentil. Et du coup, justement, j'ai fait l'épisode pour en parler, parce que j'étais apte à en parler de manière aussi point de vue scientifique, parce que je travaille sur le développement embryonnaire et le cancer, donc c'était aussi un peu, c'est mon travail aussi. Donc je me suis dit, bah, je vais informer, essayer d'en parler. Et ma chef, j'en discutais avec ma chef qui me disait, mais wow, tu le prends plutôt bien. Enfin, ça allait psychologiquement, ça a été dur au début, mais très vite, ça allait psychologiquement. Et je dis, bah, parce qu'il y a pire dans la vie. Je dis, oui, c'est malheureux.
Ça.
Mais il y a quelques mois, je perdais mon père. Donc, en fait, j'ai relativisé. Je me suis dit, certes, j'ai perdu un embryon, mais bah ça, enfin voilà, il y a pire, tant pis, on
Puis t'as la force
retentera.
d'en
Et
parler
puis voilà,
aussi.
il y a beaucoup pire dans la vie.
Et t'as la force d'en
Ouais,
parler.
c'est ça. Donc, ouais, c'est ce que je me. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'arrivais facilement à en parler. J'en ai parlé avec beaucoup de personnes. J'ai essayé d'aider beaucoup de personnes qui, au contraire, parce que c'est aussi un sujet tabou. Et je relativisais. C'est vrai que c'est horrible à dire. Je me disais, bah oui, mais il y a pire dans la vie. Moi, je relativisais parce qu'en plus, bah, à ce moment-là, toi aussi, j'ai pensé à toi à ce moment-là en me disant, bah moi, là, j'ai un ami qui a une trentaine d'années qui se bat contre un cancer. Mon père est décédé il y a à peine quelques mois. Ben, tu vois, je me dis, c'est pas bah, une fausse couche, c'est triste, mais ben, c'est pire, il y a pire, quoi.
Et tu sais, j'ai envie de dire un truc. Quand il nous arrive quelque chose dans la vie, de bien ou de mal, et qu'on a les connaissances et qu'on s'en est bien tiré, je pense que c'est dans notre devoir d'en parler pour en faire profiter les autres, en fait, pour apporter des connaissances, du savoir et du vécu. Parce que, par exemple, tu vois, le cancer, c'est encore quelque chose de tabou. Parce qu'on est dans une société où il faut être performant, faut tout battre, faut tout vaincre, un truc comme ça. Et moi, tu vois, j'étais dans un moment où j'étais faible, etc. Et j'ai voulu, tu vois, moi, sur les réseaux, sur Insta, principalement sur Insta, j'en ai parlé, j'ai tout mis, mais j'ai tout mis. Même, il y a une pote qui me disait, est-ce que ça joue sur la libido? J'ai fait, bah oui, la chimiothérapie joue sur la libido, tu vois. Et j'en ai parlé, c'est pour ça que je dis que j'ai
Bah
aucun
oui,
tabou,
mais le psychologique, de toute façon, le
parce que
moindre problème psychologique va jouer sur la libido, par exemple.
Voilà, déjà en plus. Et puis, mais c'est pour moi, c'est vraiment important. Dès qu'il arrive quelque chose et qu'on s'en tire, on en tire une leçon et qu'on s'en sort d'une façon positive, même peut-être négative des fois, et si on en a l'envie, évidemment, je dis pas que c'est obligé de le faire, mais moi, ça c'est mon ressenti à moi. Je pense que c'est important d'en parler, en fait. Après, j'en ai peut-être un petit peu trop parlé. Je sais qu'il y a des gens qui ont été un peu gênés parce que j'étais un peu trop, peut-être trop démonstratif de ce que
Ouais,
j'avais,
bah après,
mais
bah ils sont
moi,
pas
c'était
obligés
mon
de te
truc.
suivre.
Oui,
Enfin,
voilà, aussi.
ouais, moi c'est, enfin tiens, ce qu'on disait, bah quand toi ça t'est arrivé à ce moment-là, je t'avais fait un message. Voilà, ça je me rappelle, je t'avais fait un message. Je disais, bah écoute, je suis là derrière toi, mais je vais pas forcément prendre énormément. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit, mais je sais qu'au début j'avais pas forcément tout suivi sur Instagram. Des fois, ça m'avait arrivé de pas tout lire ce que tu mettais parce que c'était dur à ce moment-là
Mais
de suivre ton processus
et
parce
puis
que
même,
voilà.
puisque
Et
par
ben
rapport à
les
ton vécu
personnes ont
aussi.
qu'à juste pas suivre en fait. Hein.
Et puis par
Oui,
rapport à
voilà,
ton
non, mais je
vécu
veux dire,
aussi,
les personnes n'ont
c'était
qu'à juste
normal.
pas suivre. Et puis, et parce que moi, à ce moment-là, bon, bah, j'organisais des funérailles, donc pour, voilà, je me suis dit, bon,
Bah
bah, je vais
évidemment.
pas. Mais c'est normal, enfin, je veux dire, les personnes n'ont qu'à juste pas suivre. Au lieu de dire, oh, bah, ça choque et tout, bah non, au contraire. Moi, je trouve que la communication, ouais, de parler de ce genre de choses, de lever les tabous, c'est
C'est tellement
important.
important, c'est tellement
Et,
important.
ouais.
Moi, c'est un truc, en tout cas, que pour moi, c'est quelque chose de très important de parler de ce genre de choses.
Ouais.
Et
Et de
tu
se montrer
vois.
dans la faiblesse, comme tu disais, où toi t'as posté les photos, de se montrer aussi dans les moments de faiblesse et de
Ah
montrer qu'en
oui.
fait on est tous. Bah voilà, c'est voilà ce qu'on vit et c'est normal, on va dire. Enfin, c'est normal. Oui et non, mais voilà, c'est le chemin, le processus.
Et tu
Donc.
vois, tu me disais tu m'as dit que tu étais présente, mais que tu ne serais pas toujours là pour me parler, etc. Et merci. Parce que, tu vois, tout le monde a fait ça. Et ça, c'est assez fou parce que je me disais même, mais ils se sont fait un groupe privé, mail et tout, sur Messenger, et trucs comme ça, où ils se disent, bon, allez, c'est à toi de parler à Thibaut. Je me dis, c'est sûr, ils ont fait ça, alors que pas du tout, tu vois. C'est
Ah, c'est
juste que
gentil. Ouais. Ah oui.
personne venait me parler en même temps, parce que t'imagines si tout le monde venait me parler, au bout d'un moment, c'est hyper fatigant. Et j'avais
Bah
des gens
oui.
qui venaient me
Ouais,
parler
puis
un
comme je dis,
jour,
tu
enfin
voulais
deux
pas être
jours,
pris en
comme ça.
pitié non plus. Bah, si on te parle tout le temps, t'as l'impression
C'était ça.
d'être peut-être pris en pitié aussi, quoi.
Moi, j'ai vraiment apprécié ça, en fait, ce côté que les gens ne me prennent pas en pitié, que les gens me disent, t'inquiète pas, tu vas le dégommer, ou qu'on vienne pas me parler tous les jours. J'avais des nouvelles tous les jours, évidemment, mais les gens ne venaient pas me parler tous les jours. Et ça, c'est
Mais
tant
de.
mieux, parce que
Ouais.
sinon, ça a été trop épuisant, quoi.
Oui, si là tu vois que les comportements aussi changent complètement. Imagine, on se parle une fois tous les 4 mois et puis d'un coup, hop, toutes les semaines, tu dis bon, c'est aussi bizarre, quoi.
Oui, voilà.
Et du coup, pour continuer, pour enchaîner un peu sur, enfin tout de même arriver sur notre conclusion, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais aimé savoir avant et en tout cas durant le processus qu'avec du recul que maintenant tu le sais ou tu te dis et qu'on
Je
aurait aimé,
pense,
ou t'aurais aimé qu'on te le dise?
l'aspect aide financière, c'est sûr, ça aurait été aidant. Mais après, je t'avoue que ils ont tellement été professionnels à Tours. Ils ont tellement été professionnels que non, en soi, j'ai rien à dire. Je peux pas dire qu'il y a quelque
Ouais,
chose
t'as pas d'info. Ouais.
de négatif à Tour, tout
Non, mais.
suivi, j'ai eu ce qu'il fallait.
Non, bah, c'est bien. C'est
Non,
bien de
non.
se dire, ouais, t'as eu toutes les infos, t'as pas eu de surprises durant le processus. Ouais, bah, c'est bien. Et est-ce que toi, justement, t'aurais un conseil ou un message à faire passer à des patients, pour des patients, ou même pour des scientifiques? Parce que de base, c'est vrai que le but de ce podcast, souvent, c'est des scientifiques ou des gens qui sont intéressés par la recherche. Est-ce que toi, t'aurais un message à faire passer de manière générale?
Ne lésinez pas la psychologie, vraiment. Ça, c'est un truc. Parce que souvent, quand on voit, j'ai tendance à penser que la psychologie et la médecine sont très très souvent dissociées. Et je pense vraiment que la psychologie est très importante.
Ouais.
Vraiment, vraiment importante. Pour les gens qui se battent, je pense qu'il faut faire confiance à la médecine. Ça, j'en suis vraiment, bah, la preuve, pour le coup, parce que j'étais soigné grâce à elle. Donc, je peux que dire qu'il faut faire confiance. Et on a tous la force. On a tous cette force. Ça, j'en suis sûr. Et pourtant, avant, je me disais, ouais, je suis pas si fort que ça et tout. Et tu vois, avec le recul, avec la compréhension de ce qui m'arrivait, avec ce stress post-traumatique et tout, je me dis, putain, t'es pas si faible que ça, Frandon. Hein. C'est bien, Thibaut. Hein. Franchement, non, je me suis découvert cette
Ah,
force-là.
t'as
Et puis,
découvert une
non,
force
non,
en
non,
toi,
on a toute cette
ouais.
force-là. Après, évidemment, je dis pas
Ouais.
que je dis pas que c'est quelque chose de facile. Moi, j'en ai, je l'ai
Ouais.
vraiment, j'ai pas pris ça à la rigolade, mais on va dire que j'ai combattu ça avec l'humour. On va dire sur les réseaux, j'en ai vachement parlé avec humour parce que je suis quelqu'un qui a tendance à faire le clown ou à faire beaucoup d'autodérision. Mais c'est vrai qu'à côté, bah, c'était difficile. Évidemment que c'était difficile de voir sa famille qui s'inquiète pour soi. Si, il y a eu un autre moment où j'ai versé ma larme, c'est quand mon grand-père qui a quand même 80, qui va sur ses 94 ans. Qui a une santé de fer, j'étais pas là, mais il a dit à ma mère, il a quand même dit, ça aurait dû être moi. Et ça, j'avoue que ça me fait mal. Ça me fait mal parce que mon grand-père, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. Donc, quand qui dit ça, bon, après, oui, comme tu dis, c'est dans l'ordre des choses, mais ouais, ça fait mal. Mais bon. Mais à côté, tu vois, je l'ai rendu fier parce que je me suis battu par rapport à ça, tu vois.
Ouais,
Donc,
bah c'est bien, c'est
voilà. Donc, oui, voilà.
joli, c'est.
En tout cas, oui. Bah merci, merci les médecins. Punaise, ça c'est un truc de fou. Merci les
Très très
médecins,
joli,
merci
très
mon
gentil.
corps. Merci mon corps aussi, parce que en vrai, eh bah, j'ai encaissé des sacrés trucs. Et puis bah merci les amis qui ont été là pour moi, quoi.
Ouais, bah
Parce que
c'est un beau message.
je pense que j'aurais combattu, mais peut-être pas aussi bien. Et puis merci aussi à toi de m'avoir accepté de participer à ton super podcast
Bah
aussi.
avec plaisir.
Je souhaite surtout le fait que t'as des gens, tu sens qu'ils savent, ils ont pas vraiment, ils savent pas comment remercier.
Ouais.
C'est mignon des fois de voir. Et souvent, j'ai beaucoup de soutien en mode, je suis pas trop à l'aise avec ça, mais bon courage. Et moi, je dis juste, c'est pas grave tant qu'il y a l'envie de soutenir quelqu'un, même si c'est
Ouais.
maladroit, et que juste un courage, un truc comme ça, même un courage, ça fait du bien, tu vois. Juste ça, et j'en veux à personne, hein, par rapport à ça, parce que c'est en soi, c'est que c'est compréhensible. Il y a des
Bah,
gens qui
c'est
sont plus introvertis et des gens qui
compliqué
sont plus
aussi de
extravertis, tu
savoir
vois.
quoi dire. Ouais. Puis c'est compliqué aussi de savoir quoi dire ou comment le dire. Je pense que c'est délicat. Puis en fonction du vécu de chacun, des fois tu sais pas trop comment est-ce que bon, est-ce que ça va passer. Est-ce que toi t'es plutôt ouvert. On pouvait quand même. T'étais plutôt ouvert à la discussion de ça. Tu en parlais beaucoup, mais d'autres au contraire n'en parlent
C'est
beaucoup
ça.
moins, ne sont
Et
pas à l'aise à en parler. Donc c'est aussi.
tout autant respectable, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est chacun sa façon de faire les choses et de combattre
Ouais,
les
ah bah
choses, hein,
oui,
c'est sûr. Hein.
c'est ça. Donc c'est vrai que je pense que c'est pas facile aussi pour l'entourage de se dire comment dire pour soutenir sans dire quelque chose de travers ou
C'est
tu vois
ça.
c'est jamais bien facile. Hein. Mais en tout cas ouais non je pense que le message est passé de c'est aussi sympa c'est aussi de remercier l'entourage de remercier tout le monde. Je pense que c'est aussi important. Donc je pense qu'ils te remercient de je pense que c'est plus à eux de te remercier de tu vois de montrer aussi la force de se combattre et puis de pouvoir en parler. Je pense que ça aidera aussi beaucoup de personnes qui sont ou qui ont été dans ce cas-là.
J'espère que j'ai pu aider des gens en parlant de ça. Moi, c'était le but aussi, hein. C'était le but quand j'en ai parlé, bah moi, c'était un peu la petite thérapie aussi de le faire avec humour et d'un autre côté, de dire aux gens, regardez comment ça se passe.
Oui, non, mais c'est ça. C'est, je pense que, de toute façon, je pense que tu vas. Oui, je pense que ça va forcément aider. En tout cas, oui, moi aussi, j'espère. C'est le but de pourquoi je fais ce podcast-là. Et donc, j'ai quand même une dernière petite question parce que, alors, ça va faire un peu aussi la transition avec la recherche médicale, donc moi qui ai plus mon domaine. Mais est-ce que toi, tu as été. Déjà, est-ce que tu as été en lien avec des associations de malades, de patients, que ce soit avoir le cancer ou non, ou pas du tout? Ou est-ce que tu as été orienté et que tu n'as pas forcément
On m'a
voulu
orienté,
y
on
aller?
m'a surtout dit qu'il y avait des forums, des choses comme ça, des associations. Mais comme j'étais tellement positif, en fait, alors je dis pas que c'est une question de
Ouais.
positivité ou de négativité, pas du tout. Comme j'étais positif par rapport à ça, j'étais tellement en mode. Alors que vraiment, je dis pas du tout que ce cancer était pas grave ou quoi que ce soit. Hein. J'avais 60% de m'en sortir. J'avais quand même 40% de ne pas m'en sortir. Ça reste quand même très gros, tu vois.
Ouais, c'est
Et c'est pour ça que c'est pour ça que maintenant, allez, au moment où on m'avait dit ça, j'ai dit oh non, je vais le faire et tout. C'est depuis ce stress post-traumatique que je suis beaucoup plus en mode ah ouais quand même. Et bah c'est fait, c'est je suis suivi psychologiquement par une psychologue de la Ligue contre le cancer. Voilà.
D'accord, OK.
Depuis le mois de janvier. Voilà, depuis le mois de
D'accord, ouais, donc qui est
janvier.
vraiment spécialisée, c'est une psychologue qui est vraiment
Exactement.
spécialisée
Ouais,
dans ce
ouais.
domaine-là,
C'est,
quoi.
sinon, pendant le
D'accord.
moment, on m'a dit qu'il y avait des psys. Mais en fait, j'étais tellement dans le combat, j'étais sûr, j'étais tellement dans le truc, tellement en mode. En
Ouais,
fait, c'est simple, je voyais le
t'étais pas
truc,
là.
c'était un peu comme un. Je voyais le truc comme une sorte de boss de jeu vidéo, tu vois. Fallait que je le batte. Fallait que je batte ce truc. Et fallait que je puise dans ma force à moi. Et maintenant, bah, comme j'ai plus tellement de force psychologique, bah, j'en appelle à une autre qui est
Ouais.
psychologie. Voilà, contre la vie, contre le cancer. Mais après, je sais qu'il y a d'autres aides. Mais c'est vrai que je me suis pas vraiment renseigné sur le moment, en fait. J'en avais
Ouais, c'était
pas
pas quelque chose,
essentiellement
toi,
le
qui t'avais pas
besoin.
le ressenti, t'avais pas le
Je
besoin.
n'avais pas le besoin à ce moment-là.
D'accord. Non, mais c'est aussi intéressant, ouais, de voir. Bah, toi, t'en as pas eu le besoin, mais tu vois, de montrer aussi que si t'es maintenant, t'es quand même. Donc effectivement, je voulais parler. Je te posais la question parce que j'allais justement mentionner la Ligue contre le cancer. Donc c'est aussi intéressant de voir que oui, il y a des psychologues qui sont spécialisés dans ce domaine-là, qui sont vraiment là pour accompagner les patients et même après. Tu vois, comme tu dis, bah, elle t'a pas accompagné pendant le processus, mais en fait là, c'est vraiment le après. Bah, c'est pas tout à fait fini. On en parlait aussi en off, ça me fait penser à ça. Bah voilà, est-ce que actuellement, tu m'as dit que tu commençais à retrouver une vie normale, tu travailles et tout, mais est-ce que même physiquement, tu as encore des symptômes en dehors du stress post-traumatique ou que ça y est, là,
Je
ton corps
repère
est
de
revenu
la
comme avant?
barbe. Et ça, c'est fou. Je perds des poils de barbe depuis genre 3 semaines. Je vois ma barbe. Il y a des
Ah
poils
ouais,
qui tombent.
c'est récent en
Ah ouais.
plus.
Et alors, j'ai quand même été voir le médecin par rapport à, pas que par rapport à ça, mais le petit contrôle et tout. Et j'en ai parlé. Il m'a dit, ah non, c'est totalement possible que ce soit des. Parce que la chimiothérapie, ça met quand même du temps à partir du corps. Ça peut mettre plusieurs mois, donc ça peut être des effets. Voilà, c'est pas énorme, hein, c'est juste, c'est pas comme la pelade, c'est pas comme ça. Alors la pelade, c'est vraiment une zone où il n'y a plus du tout de barbe, hein, c'est de l'alopécie, mais c'est pas du tout de l'alopécie, c'est vraiment. Bah, comme si je perdais de la barbe pour de la chimiothérapie, quoi. C'était juste ça. Sinon, après, j'ai
D'accord. Ah
pas.
ouais.
Si j'ai. Mais après, ça, c'est plus de l'opération. J'ai ma cicatrice qui me picote quelquefois. Voilà. Sur le
Ouais.
haut du sternum, c'est un peu
OK.
sensible. Mais sinon, ça va. J'aime pas trop. Tu vois, même moi, j'aime pas trop toucher. Je suis pas spécialement fan. Mais bon, j'ai des crèmes que je m'applique et tout sur le haut de la cicatrice.
Ouais, ce que j'allais te demander, t'as quand
Voilà.
même des. Ouais, mais bon, tu vois, comme mine de rien, c'est toujours ennuyant, quoi. Puis c'est toujours, du coup, ça te rappellera toujours. Enfin, t'es là en mode, bon, bah, j'ai eu une opération. C'est pas
Alors,
agréable
si
non
il y a
plus.
eu une pour concernant les aides, là je reviens sur les aides de ce que tu disais tout à l'heure. Souvent,
Ouais.
quand on a eu un cancer et qu'on ne sait pas d'où il vient, les médecins parlent des oncogénéticiens. Et ça peut être
Oui.
intéressant parce que moi, par exemple, moi je sais que de mon côté paternel, bah, du côté maternel, paternel, du côté de la mère de mon père, c'est beaucoup beaucoup de cancers. Moi, j'ai mon
D'accord.
père, il est mort d'un cancer du poumon. Bon, après, il fumait énormément. J'ai ma grand-mère qui est morte d'une leucémie et j'ai un oncle
Ouais,
qui est mort
mais.
d'une tumeur au cerveau très très jeune. C'était des années 60, tu
D'accord.
vois, donc voire 50. Donc oui, c'est intéressant quand même de quand on ne sait pas, quand on a, en tout cas pour la médecine, c'est plus pour la médecine, même pour se rassurer nous de savoir d'où ça peut venir. Les oncogénéticiens peuvent nous aider par rapport à ça.
Oui, puis même pour toi, déjà de savoir si tu as des risques
C'est ça?
potentiels, et puis même pour si jamais un jour tu as des enfants, de
Exactement,
savoir aussi
exactement.
si c'est ponctuel ou si c'est pour ta descendance
Ah,
aussi.
tiens!
Ouais, c'est vrai que c'est important ce
On
que
n'a
tu
pas
dis, ouais.
parlé de ça. Petit aparté, quand je dis que j'ai aucun
Ouais.
tabou, quand j'ai fait ma chimiothérapie, j'ai fait congeler
Ouais.
mes spermatozoïdes. Parce
Ah,
que
oui, c'est vrai que c'est
la
intéressant ça de.
chimiothérapie peut rendre stérile.
Ouais.
Ça, je ne le sais pas encore. Il faut que je retourne dans un an. Dans
C'est
un an,
vrai.
je crois, refaire des tests. Oui, parce qu'il y a aussi, c'était particulier. C'est vraiment un petit aparté, hein, mais quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, on m'a
Ouais,
dit
non,
juste
mais.
après, il faut que vous alliez
Ouais.
faire un don de sperme. Bon, ce qui était totalement impossible à
D'accord.
faire à ce moment-là pour moi, donc je l'ai refait plus tard. Mais avant la chimio, en tout cas. C'est vrai que c'est intéressant à dire ça. Mais bon, voilà, l'aparté est close.
Bah, c'est important, non, mais je pense que enfin, avant de clore, tu vois, c'est vrai que c'est important de. On parle des effets, tu vois, des effets tabous, parce que je sais que sûrement pour les femmes qui ont un cancer du sein, c'est aussi souvent le cas. Les femmes ont la possibilité de congeler leurs ovocytes parce que ça peut rendre stérile. Mais c'est vrai
Oui,
qu'on.
ah oui,
Je ne sais
effectivement,
pas
j'avais
si
oublié
c'est
ça.
pour tous les types de cancers, pour tous les types de chimio, mais effectivement, ouais, c'est un point où
Bah,
on ne
c'est
pense
vrai
pas
qu'on n'y pense
forcément,
pas.
mais effectivement, c'est. Puis ça peut être. On te le dit. Puis même psychologiquement, je pense que là, on vient de t'apprendre que tu as un cancer, tu vas avoir de la chimio, et on te dit, ah, et il faut aussi aller congeler vos spermatozoïdes ou vos ovocytes parce que y a un risque de. Je pense que psychologiquement, ça
Juste
peut
après,
être.
hein. Ça, c'est vrai que c'était un peu particulier, mais bon, voilà.
Ouais. Non, mais effectivement, c'est une bonne aparté, c'est intéressant d'en parler, quoi. Et ben écoute, avant de clore, moi je voulais faire aussi une petite aparté. Donc on a mentionné justement la Ligue contre le cancer. Est-ce que toi, alors moi, comme je disais, c'est mon domaine. Moi je travaille dans la recherche médicale. Maintenant je travaille dans le cancer. Et en fait, c'est souvent des questions qu'on me pose. Et je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion, vu que là on parle vraiment de cancer, ça va être l'occasion d'en répondre. Est-ce que moi, on me pose souvent la question de est-ce que c'est possible de faire un don pour la recherche? Et donc, moi, c'est pour ça que je mentionnais la Ligue contre le cancer, par exemple, c'est un bon exemple, où bah, justement, c'est grâce aux associations comme celle-là. Donc, la Ligue du cancer est quand même une des plus grosses nationales en France, notamment pour le cancer, mais il y en a plein d'autres qui ont justement récolté des dons pour faire avancer la recherche. Et en fait, ça finance nos salaires et ça finance aussi, par exemple, nos matériels, de ce qu'on a besoin donc au niveau des produits pour pouvoir faire nos recherches, au niveau des matériels, des matériaux et de nos salaires. Donc voilà, c'était vraiment une question parce que je voulais en parler parce que c'est vraiment on me pose souvent la question déjà, est-ce qu'on peut faire des dons? Bah oui, il y a des dons pour la recherche, donc plein de types. Si vous voulez faire avancer la recherche médicale dans le cancer, un certain type de cancer, enfin là, il faut se renseigner sur Internet, il y a vraiment plein d'informations. Ça dépend vraiment du type de maladie et voilà pourquoi. En fait, qu'est-ce qu'on en fait des dons? Où est-ce qu'ils vont? En fait, ils partent dans la recherche et en fait, dans la recherche, ils sont dispatchés en fonction du type de financement que l'on a. Et nous, en fait, on passe beaucoup de temps à faire des recherches de demandes de financement pour avoir de l'argent pour financer ben, nos recherches, nos travaux et nos salaires. Et donc, pour continuer dans cet aparté, est-ce que toi, on t'en a parlé ou est-ce que tu as entendu, de ton point de vue, parce que là, moi, je parle de mon point de vue de chercheur qui est vraiment dans le milieu, toi, en tant que patient ou même en tant que personne, on va dire, en dehors de la recherche médicale, est-ce que c'est quelque chose à laquelle on t'en a parlé
Absolument
ou tu
pas.
en avais entendu parler?
On m'en a pas du tout parlé. Non,
Ok.
non, on m'en a pas du tout parlé.
Donc.
Je pense que. Je pense que, ouais, les médecins. Je pense que c'est plus le travail des oula. Je pense que c'est plus le
Oui,
travail des associations, en
oui,
fait. À mon avis. Je ne sais pas
oui.
pourquoi.
Ouais, non, mais là, je te parle même en dehors même de ton processus. C'était vraiment une question curieuse. J'étais vraiment curieuse de savoir, même en dehors de là, de cette année où tu avais le cancer, peut-être qu'avant, tu en avais entendu parler, ou même pendant là, vu que toi, tu es suivi par une psychologue de la Ligue contre le cancer. Est-ce que, ben, quand on t'a introduit à la Ligue contre le cancer, est-ce que c'était quelque chose, des infos que tu avais eues? Parce que c'est vrai que moi, je suis assez curieuse que ben, nous,
Non.
c'est des infos qu'on a de manière générale. Et j'étais curieuse, voilà, de savoir si vous,
Ouais, non, on n'a pas
c'était
parlé.
quelque chose. Ouais.
Après,
D'accord. Voilà, moi,
je sais que
c'était.
ça existe. Je sais évidemment que ça existe, je le savais déjà. Mais
Ouais.
on m'en a pas. Non, on n'a vraiment pas parlé de ça.
Ok. Ouais, donc c'était vraiment là, la petite curiosité pour finir l'aparté. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment parler pour expliquer aussi de bah, qu'est-ce qu'on fait des
C'est
dons,
important,
pourquoi. Bah,
c'est
voilà, faut savoir
important.
que nous, en tant que chercheurs, on passe nos beaucoup de temps, je pense, dans notre quotidien à faire des demandes de financement. Bon, voilà, c'est la petite aparté, mais en tout cas, c'est une petite information pour moi, apporter mon point de vue scientifique dans tout ça. Et bon, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé tout ça. Est-ce que tu as d'autres informations ou d'autres choses que tu voudrais ajouter avant
Bah,
qu'on
faire
finisse
confiance à la
l'épisode?
médecine et puis en sa propre force, je pense que
Ouais.
c'est important. Vraiment, bah, en tout cas,
Ouais. C'est un beau message.
d'abord en sa propre force, déjà avant tout, et à la médecine, parce qu'évidemment, la médecine, c'est hyper important. Le cancer, alors, évidemment, à moindre mesure, mais les cancers d'aujourd'hui ne sont plus comme les cancers d'avant, c'est-à-dire qu'avant, c'était un truc très pessimiste. Bon, évidemment, je parle pas de tous les cancers, mais maintenant, la médecine est tellement plus avancée qu'il y a 30 ans que il y a beaucoup plus de chances de s'en tirer maintenant qu'il y a 3 décennies. Donc, ça, c'est pour ça aussi que j'étais beaucoup plus positif par rapport à ce combat-là.
Et c'est important ce que tu dis parce que, alors, tu sais, souvent, moi, on me dit, quand je dis que je travaille contre le cancer, on me dit, c'est une nouvelle maladie. C'est, en fait, on en voit de
Non, c'est
plus en
faux, c'est
plus.
faux.
Alors, oui et non. Ouais, c'est ça. C'est faux. Sachez que, pour ceux qui nous écoutent, le cancer existe depuis des milliers d'années. On a, alors, j'ai pas la date exacte, mais les premières traces de cancer, de cellules cancéreuses qu'on a vues, c'était, mais il y a. Je dis ça, je me demande si même pour l'homme néandertal, enfin, on n'avait
Ouais.
pas déjà vu des traces. Enfin voilà, c'est très 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 vieux. C'est des maladies où avant c'était très courant aussi. Sauf
Petite
qu'en fait, avant, on
anecdote,
savait pas les diagnostiquer.
quand on n'arrivait pas à diagnostiquer, on disait que les personnes mouraient du mal. Il est mort du mal.
Oui,
Ouais.
c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, voilà, c'est, on avait déjà observé, il y a déjà des écrits qui observaient des tumeurs, des grosseurs sur les patients. Et en fait, c'était des grosses tumeurs. C'est juste que, bah, à l'époque, on savait pas diagnostiquer. Et du coup, bah, les personnes mouraient. Bah, comme tu dis, on disait qu'ils mouraient du mal. On savait pas vraiment de quoi ils mouraient. Même beaucoup, quand on meurt de vieillesse, on meurt pas vraiment de vieillesse. On meurt toujours de
Non,
quelque chose.
évidemment.
C'est juste que, bah, maintenant, on sait le diagnostiquer. Et on sait le traiter, et c'est pour ça qu'on en parle aussi de plus en plus. C'est juste que bah, la parole est ouverte, les réseaux font que bah, on voit beaucoup plus les informations, et en fait on sait plus le diagnostiquer, donc on sait aussi plus le traiter. Donc c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi c'est souvent qu'on me dit, ah bah maintenant le cancer c'est vraiment l'ère, c'est enfin la mode. Oui, j'ai déjà entendu ça, que dire bah, le cancer c'est la mode, on en
Oui, bien
trouve
sûr.
vraiment, c'est partout. Bah non, c'est juste que c'est une maladie qui existe depuis des années. Certes, il y a certains types de cancers qui augmente parce que avec l'hygiène de vie, les perturbateurs,
Mais le
enfin
thymus,
voilà, pas mal de caractéristiques,
hein,
mais ouais.
je pense que c'est un des cancers qui. Les médecins m'ont expliqué que ils en voyaient. Bon, c'est très rare, mais ils en voient de plus en plus parce que perturbateurs endocriniens, la
Ok,
pollution,
ouais.
pour tous les produits qu'on inhale, qu'on mange, etc., etc. Donc oui,
Ouais.
ça joue, quoi.
Oui, c'est ça, voilà, c'est vrai qu'il y a des types de cancers sont augmentés, voilà, dû aux nouvelles hygiènes de vie, mais il y a aussi des types de cancers qui sont réduits parce qu'on sait mieux les traiter, et inversement, qui existent depuis les millénaires. Mais c'est vrai que c'est important, voilà, ce que tu disais, parce que c'est vrai que c'est une remarque que j'ai beaucoup et que je dis non, ça, le cancer existe depuis très 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 longtemps. Et c'est juste que bah, maintenant, la technologie et la médecine fait que, bah, vu que les chercheurs on comprend un peu mieux le cancer, parce que bah, par exemple, moi, c'est mon rôle au quotidien d'essayer de comprendre. Moi, je travaille sur un cancer infantile, et en fait, mon quotidien est d'essayer de comprendre ce cancer pour justement après dire au médecin, bah voilà, il évolue comme ça, comme ça, comme ça, telle mutation fait que le cancer a évolué comme ça, pour que puis derrière, ils puissent aussi adapter au mieux les traitements. Donc ouais, c'est important. Bah écoute, si t'as pas d'autres informations à faire, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en discute. En tout cas, j'étais très contente d'échanger avec toi. C'était un sujet aussi qui me tenait bien à
C'était
cœur.
un vrai plaisir aussi,
Donc
hein.
bah, je te remercie.
Ça, je voulais en parler, je voulais en parler. Je voulais en parler un jour, et puis bah c'est pour ça que je suis venu vers toi pour ça, quoi.
Bah, vraiment, je te remercie, parce que c'est vrai que c'est pas une thématique que j'aborde forcément. dans ce podcast, et c'est toujours intéressant. Moi, je trouve ça important de mettre aussi en avant les patients. Et donc ouais, non, c'était très intéressant. J'espère que les gens trouvent aussi intéressant. En tout cas, s'ils sont encore là, quand ils nous écoutent encore, c'est qu'ils ont trouvé ça intéressant. Sinon, ils auraient déjà quitté. Voilà, j'espère que ça va en aider plus d'un. Mais en tout cas, voilà. Sinon, vous pouvez nous retrouver. Ah oui, je t'ai pas posé la question, mais si, vraiment, il y a des gens qui veulent te contacter, qui ont des questions à propos de ça. Est-ce que tu serais déjà ouvert à ce qu'on te contacte, à en parler? Et si oui, où est-ce qu'ils pourraient te contacter?
Bah, principalement, moi, je suis principalement actif en réseau social sur Instagram. Et c'est Thibaut, T-H-I-B-A-U-D, F-R-D.
Ok. Je mettrai le lien en description, comme à chaque fois, je mettrai le lien. Je mettrai mon lien aussi de ma page Insta de vulgarisation scientifique basiologie. Et puis, voilà, pareil, si vous voulez me contacter, moi c'est Instagram ou LinkedIn. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. En tout cas, on vous dit, en tout cas, moi je te dis à bientôt. Et puis, même nos auditeurs, je vous merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis,
merci à très vite.
Merci.
Salut!